Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous. Nous sommes dans le grand studio hein, ce soir pour parler donc de course hippique et aussi de foot avec d'abord tous nos invités, tous nos intervenants. On va d'abord saluer deux confrères de la chaîne hippique Ikedia, à savoir déjà Anthony Roy. Anthony, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonsoir, merci à vous de nous inviter, bonsoir à tous.
Alors, très brillamment, qu'est-ce que vous faites maintenant sur Ikedia? Je sais que vous êtes un petit peu sorti du terrain.
Oui, exactement. J'étais plutôt sur le terrain il y a encore un an et demi, deux ans de cela. Et maintenant, je suis sur la partie rédaction. Donc, avec Jean-Baptiste, que vous allez entendre dans un instant, on gère toute la partie rédaction web. Donc, les articles sur le site, les réseaux sociaux, les reportages également qui alimentent l'antenne et pas mal d'autres choses aussi.
Voilà, il a fait ses débuts dans le journalisme sportif, il a un peu bifurqué vers l'hippisme, qui est quand même un sport aussi. Hein. C'est Jean-Baptiste Bagaria. Bonsoir Jean-Baptiste, ça va ?
Exactement, ça va, bonsoir à tous, merci de nous accueillir. C'est vrai, ça fait plaisir, on va parler football et puis course hippique.
Très bien.
C'est avec un grand, grand plaisir d'être présent.
Alors justement, le lien entre le foot et les shows, c'est notre ami Guy Michelin. Guy, bonsoir. Heureux de te retrouver.
Bonsoir à tous.
Ça va, pleine forme depuis le mois de janvier ?
Oui, ça va très bien. Ouais.
Ah, et puis, depuis la Coupe du Monde, c'est déjà une vieille histoire. Voilà. Et puis, on va saluer nos équipes d'intervenants, de consultants. Ils sont là à tour de rôle. Il vient d'arriver, c'est notre ami Eladji. Bonsoir Eladji, ça va ?
Bonsoir Philippe, ça va très bien et toi ?
T'as passé une belle semaine de foot quand même.
Ouais, j'ai passé une très belle semaine de foot.
On va avoir beaucoup de choses à dire.
Je me suis régalé, beaucoup.
Il doit être supporter parisien, lui, non ?
Entre autres, oui. Hein. Et puis, on va accueillir aussi Juliette. Elle fait sa dernière aujourd'hui, Juliette. Bonsoir, Juliette.
Bonsoir, Philippe.
Ça va ?
Ça va très bien. Ouais, j'ai passé une très bonne soirée hier soir, donc tout va bien.
Très bien. Salut.
Ça va pas, j'ai passé une très mauvaise soirée.
Oui, mais vous êtes journaliste.
Il en fallait bien un. Mais c'est vrai, non, je suis humain avant tout. Avant d'être journaliste, je suis un humain. Et l'humain a passé une très mauvaise soirée. D'ailleurs, pour tout vous dire, je suis même pas allé au bout du match.
Bon, ah. Et puis, il revient du ski, je sais, mais je sais qu'il a suivi tous les matchs aussi. C'est notre ami, donc Antoine. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir, ça va
très
bien.
Ça va bien, pleine forme ?
Ouais, très belle soirée.
Alors, effectivement, on va commencer comme la tradition le veut, hein, même si Antoine nous parlera un petit peu aussi de rugby en fin d'émission, hein, avec la victoire de l'équipe de France devant donc l'Écosse, 32-21. On va commencer, comme la tradition le veut, par l'actu foot, hein, et puis notamment cette laborieuse, c'est moins qu'on puisse dire, semaine du foot français au niveau des Coupes d'Europe, Guy. Trois clubs, tous les trois, donc éliminés. On a quand même déjà vu ça dans le passé. Hein.
Oui, on a déjà vu ça dans le passé, mais il y a quand même un problème d'approche de la compétition européenne par les clubs français. C'est pas possible autrement. Parce que c'est inimaginable que les clubs français ne comprennent pas l'importance des coefficients UEFA. Parce que les coefficients UEFA vous classent un pays dans la hiérarchie européenne. La France est actuellement cinquième. Tant qu'elle est cinquième, elle va toujours bénéficier de trois clubs en Ligue des Champions. Avec la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, si elle garde sa cinquième place, elle peut avoir trois clubs qualifiés d'office dans les phases de groupe et un quatrième qui fait les barrages. Bon. Mais tant qu'on est sous la menace des Pays-Bas et du Portugal, qui, eux, réussissent quand même, tant bien que mal, à sortir une victoire, un nul, tout ça, ça s'accumule et ça fait un coefficient qui fait que l'écart se resserre avec nous. Et ce serait catastrophique pour le football français qu'on perde cette cinquième place, quoi. Voilà.
Alors, on va revenir sur les matchs de cette semaine. Hein. Nantes qui avait fait match nul, donc il y a une semaine à Turin 1-1. Ouais, là, la marche était trop haute, victoire 3-0.
Non, mais c'est
super du Maria en plus.
Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le Nantes a été faire un match nul à Turin contre la Juventus.
Avec un peu de réussite, mais enfin bon.
Monaco est allé faire 3-2 à Leverkusen, en Allemagne.
Ça, c'est moins pardonnable, ouais.
Et quand ils jouent à domicile, ils sont incapables de marquer un but à ces équipes-là, ou alors de laisser filer un match comme ils ont fait laisser filer à Monaco, se réveiller à la fin, enfin bref. Monaco me déçoit un peu parce que, bon, sur papier, c'est une équipe qui est quand même bien composée, mais elle est trop irrégulière, quoi.
On va rappeler qu'ils avaient gagné le match.
Pour Nantes, c'est différent. Ouais. La barre était quand même assez haut. Bon. Ouais. En plus, ils sont tombés sur un Di Maria qui était revanchard de revenir jouer.
Ils jouent toujours très bien contre nous, contre l'équipe de France.
On laisse partir qui ? On laisse partir Kingsley Coman au Bayern. Il nous marque le but qui nous bat en finale. Ouais. Et il marque le but du match aller la semaine dernière. Alors,
c'est la vie. Donc, cette défaite de Nantes, d'abord. Et puis, bon, Monaco, comme le disait Guy, effectivement, Monaco avait gagné le match.
Guy est très remonté aujourd'hui. On le voit, voilà. Il est très remonté aujourd'hui. Voilà, il a passé son coup de gueule. Franchement. Mais après, c'est une chose, moi, je m'y attendais. J'ai envie de te dire. Franchement, on a eu la même chose. La saison dernière, on a eu la même chose. Et il y avait déjà plus d'espoir. Déjà, en vue des adversaires, ça paraissait compliqué. On a vu match aller, Nantes, ils ont réalisé. Ils ont tenu en échec la Juventus de Turin, mais en regardant le match, la Juventus de Turin aurait pu en mettre 2-3.
C'est vrai qu'au match aller, il y a
Là, c'est juste la logique qui s'est appliquée au match retour. En sachant que Nantes, il n'y a pas de problème. Monaco, je trouve que c'est un scandale.
Bah oui, ils vont gagner 3-2 à l'extérieur.
Ils gagnent 3-2 à l'extérieur. Ils doivent au moins tenir le match nul à domicile.
Bien sûr.
Ils ne peuvent pas se laisser distancer comme ça.
Après, je te rejoins. Ouais. C'est vrai que pour Nantes, on pardonne parce que sur le papier, l'écart était trop important. Concernant Monaco, on sait qu'il y a un vrai problème à Monaco, c'est la défense. Autant il y a une attaque de feu, autant défensivement c'est très faible. On l'a vu aussi ce week-end contre Nice, ils en ont pris 3. Contre Leverkusen à domicile, ils en prennent 3. Il y a un vrai sujet dans ce club. Ils sont très forts pour recruter des attaquants parce que franchement, leur ligne d'attaque, même les remplaçants, un joueur comme Volant, des remplaçants, ce qui est quand même assez incroyable. Je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup remplaçant dans des clubs français, mais derrière c'est trop faible. Et quand on recrute un joueur comme Malang Sarr, et qu'on le fait jouer titulaire, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Là où c'est plus grave concernant Monaco, surtout, c'est l'attitude du coach, le Belge Clément, c'est ça, qui à la fin dit qu'il est hyper fier de ses joueurs. Mais ça, on ne peut pas l'entendre, ce n'est pas comme ça qu'on va avancer en Europe. Ensuite, concernant Rennes, il y a une côté aussi malédiction. C'est Gilles Favard qui est pas mal officie chez nous maintenant, chez Equidia, qui nous disait « Florian Maurice est un très grand recruteur. » Pareil, il s'est très bien recruté devant, mais derrière, c'est trop faible. Alors Mandanda a fait du bien, mais derrière, la défense centrale, c'est moyen, et on voit qu'ils se font aussi éliminer.
Ouais. Donc, ouais, c'est un vrai problème. Ils doivent tuer ce match, Rennes.
Oui, bien sûr, mais il manque d'expérience.
À 2 minutes de la prolongation, Rennes est qualifié. Bon. Ouais.
C'est vrai.
En défense centrale, il y a ce gamin de 18 ans. Bon, il a fait une bêtise. Bon. Ouais. C'est malheureux, mais c'est un peu la malédiction.
Et puis, cette séance maudite de tir au but, hein, parce que Rennes, ils sont battus 2-1 au match aller, ils gagnent 2-1 après prolongation au match retour, et ils perdent la séance de tir au but. Hein. Ils la perdent donc 5-4, et pareil pour Monaco. Hein. Ils vont gagner à Leverkusen 3-2. Ils sont battus à Monaco 3-2 et ils perdent la séance de tir au but. Est-ce qu'il y a une malédiction française ?
Moi, je crois pas que ce soit. Non, ce n'est pas une malédiction. Ouais. Déjà, Nubel c'est un gardien qui est surestimé. Le directeur sportif l'a protégé, le directeur sportif monégasque. Mais franchement, c'est un gardien qui n'est pas du tout rassurant. Et moi, je ne l'ai jamais vu faire d'arrêt décisif. Je ne comprends pas pourquoi Monaco mise sur ce gardien. Ensuite, concernant Rennes. Je pense qu'il y a un problème de travail. On a vu, il y a eu pas mal sur les réseaux sociaux, la bouteille d'eau du gardien du Shakhtar, où il avait noté où les tireurs tiraient leur pénalty, ce que nous on fait pas. Nous on pense que c'est une loterie, or c'est pas vrai. Les séances de tir au but, c'est pas une loterie, c'est du travail. Et en termes de travail, on est à la ramasse au niveau des par rapport aux autres clubs européens.
Je suis d'accord.
Alors c'est peut-être là qu'il y a un problème justement, c'est qu'il va falloir travailler ces séances de tir au but. Juliette.
Ouais, les séances de tir au but, c'est important que les gardiens analysent bien ça. Après Mandanda, on sait qu'il n'est pas expert. En tant que gardien de l'équipe de France, Lloris ne l'était pas non plus. On comptait plutôt sur Maignan.
On n'a pas d'expert.
Mais Rennes, c'est terrible. La défense, le plus vieux avait un peu plus de 20 ans. Alors ils ont perdu Marie Traoré, leur capitaine. Donc ils ont recruté en prêt un joueur de Tottenham.
mais c'est trop faible. Alors le but contre son camp est malheureux, mais il ne surprend pas vraiment finalement, parce que les Rennes luttaient, mais on ne les sentait pas spécialement dominateurs. Doku a fait du bien sur la percée, sur le but.
Quel match.
Doku, quand il n'est pas blessé, il est phénoménal, il percute, mais c'est trop jeune, l'effectif est trop jeune.
Abou, t'en penses quoi, toi?
Du
fiasco français cette semaine en Coupe d'Europe.
Ouais, on est habitué. Après, moi, je vous trouve assez dur avec Rennes. C'est vrai que moi, de toute façon, Rennes, je ne les voyais pas passer avant, mais je vous trouve assez dur. Il y a quand même Amari Traoré qui n'est pas là, qui est le capitaine de l'équipe et un pilier en défense. C'est un élément important qu'on enlève et on le voit avec beaucoup de clubs français. Quand on enlève des piliers de la défense, ça devient vite compliqué. On l'a vu hier encore avec l'OM face au PSG. Il y a, comment il s'appelle, Benjamin Bourigeaud qui n'était pas là. Il y a Sheka qui n'était pas là. Il y a Martin Terrier qui est blessé. Il y a énormément de joueurs blessés à Rennes. Enfin, moi, je vous trouve assez dur avec Rennes. Quant à Nantes, ça reste la Juventus quand même en face. La Juve, si tu leur enlèves pas 15 points, c'est le deuxième de Serie A à 47 points derrière Naples et devant l'Inter Milan. Et pour Monaco, c'est une désillusion. Pour Monaco, il y avait effectivement... Enfin, fallait pas sortir. Pour Monaco, fallait pas sortir, fallait aller plus loin. Mais moi, je me demande, même si les Monégasques, en fait, ils voulaient réellement jouer cette compétition, on voyait que ça allait être compliqué. C'est peut-être très grave, mais c'est la réalité des clubs français. Il y a combien de clubs français qui jouent réellement la Coupe d'Europe quand c'est la Ligue Europa?
Exactement.
À part l'année où Lyon va en demi-finale et se fait sortir par l'Ajax, et l'OM qui va en finale et... perd contre l'Atlético. Moi, je ne vois pas beaucoup de clubs français qui jouent à fond cette compétition-là. En plus, il faut savoir que Monaco, ils voient qu'il y a l'OM devant eux en championnat. Rennes et Lens qui carburent derrière, qui reviennent. Lille, Nice qui reviennent très bien. Tu as peur aussi de ta place en championnat. Donc, moi, je suis effaré par la sortie de Monaco, mais ça ne m'étonne pas plus que ça. Je ne suis pas sûr qu'ils voulaient aller plus loin que ça non plus.
Ouais, mais là tu soulèves un sujet. C'est que tu me parles des places en championnat. Mais ce qu'on voit, c'est si c'est pour se qualifier en championnat en Coupe d'Europe, ouais. Et après ne pas faire grand chose, parce que sincèrement, je suis d'accord avec toi, Nantes, il n'y a aucun regret, c'est un miracle. Ils jouent avec des gars comme Palois qui font ce qu'ils peuvent, c'est des très bons joueurs de Ligue 1, mais face à la Juve ils sont perdus. Bon, Rennes c'est encore une équipe jeune, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, laisse la place. En fait, il y a des clubs peut-être qui ont envie de jouer l'Europe et laisse la place aux clubs français qui peut-être ont plus envie de jouer l'Europe. Là, chacun se bat pour ces places-là. Alors oui, après il y a les droits télé et l'argent qui tombe. Mais en Europe, on est quand même d'une faiblesse, c'est d'une tristesse absolue. Là, il reste le PSG, on va certainement en reparler, mais qui, je pense, va quand même faire un gros coup avec le Bayern. Moi, j'y crois. Oui. Et puis, il reste l'OGC Nice, mais dans la Coupe des conférences...
Ouais, des cinquièmes, sixièmes, quoi, la Coupe des cinquièmes,
voilà,
sixièmes.
Après, voilà. ouais. Mais vu l'état de forme de Nice, voilà, on peut peut-être rêver à quelque chose pour un club français en Europe.
Nice qui va tomber sur le terrassol. Hein.
Exactement, ouais, exactement.
Donc, c'est jouable.
Voilà, c'est jouable.
C'est une bonne équipe qui a mis en difficulté le Real Madrid l'année dernière en phase de poule. Oui, mais ça reste une bonne équipe, attention. C'est les équipes comme ça où on dit c'est des équipes faciles.
C'est pas simple, mais ça reste accessible quand tu compares les deux budgets. Tu vois, il y a un moment, il y a aussi une question de budget.
Même l'effectif, c'est au-dessus Nice.
Même là, voilà.
Et après, voilà, clairement.
Une équipe comme Nice n'est pas capable de battre Tiraspol. Alors, il vaut mieux
rester. Oui, il n'y aura aucun regret.
Non, franchement, quand même, Tiraspol, c'est un peu. Moi, c'est prenable, mais ça joue bien au football.
Non, ça joue. Mais le meilleur joueur est quand même parti à Saint-Etienne.
Oui, oui, bien sûr.
Bon. Alors, LAG, parmi les autres résultats, c'est aussi la qualification de Manchester United. Hein. Donc, 2-2 à l'aller contre Barcelone, et puis Manchester United qui a gagné 2-1 le match retour.
Ils ont gagné 2-1. Ouais. Le match a été difficile pour les Barcelonais. Mmh. Voilà, ils ont ouvert le score grâce à un penalty un peu discutable. Mais bon, voilà, on va dire. Mais en tout cas, United était supérieur. Voilà. Ouais. Manchester United était supérieur, et ils l'ont montré à domicile. Ils sont allés arracher la victoire.
Alors, eux, ce n'était pas un reversé de Ligue des Champions. Par contre, les trois clubs qui ont battu les clubs français, c'est trois reversés de Ligue des Champions. Hein,
ah oui, tout à fait.
Ouais. Donc, peut-être, ceci explique peut-être cela.
Oui, non, mais d'accord. Enfin, ça a été reversé de la Ligue des Champions, mais ça n'empêche pas quand même.
Pour revenir sur Manchester, Old Trafford, Rashford, moi, il m'impressionne depuis 2023. Il a le feu dans les jambes. Un Casemiro encore hyper bon. Il a été très bon hier contre Newcastle. Il est dans une forme. On le croirait au Real avec Kroos et Modric. Donc moi, il m'impressionne. Je pense que c'est la meilleure recrue des dernières années. Alors, il est venu très récemment, mais quand on voit ce qu'ils ont fait autour, les Sancho, les Weghorst et compagnie, Anthony, c'est finalement sur Casemiro qu'ils ont misé au milieu, et ils ont bien fait, il leur fait vraiment du bien, avec un Rashford aussi puissant en 2023. C'est peut-être le meilleur attaquant depuis le début de l'année.
C'était la pièce maîtresse, ouais, Casemiro. C'était la pièce maîtresse. Dès qu'ils l'ont recruté, on savait déjà qu'il faisait un gros coup. Casemiro, il n'a jamais déçu, que ce soit à Porto ou au Real de Madrid. Très rare, il fait des mauvais matchs. Il est là dans les gros moments, et c'est ce qui leur manquait. Au début, il a eu du mal à s'adapter. Au final, il s'est adapté, et là, c'est devenu... Et carrément, il donne de la... Les autres joueurs autour se sentent encore plus forts autour de Casemiro.
Oui, c'est puissant, c'est incroyable.
Et on voit les matchs avec Casemiro, ils sont Casemiro parce qu'il avait été suspendu juste avant, et on les voit. Et Rashford, tout simplement, c'est le meilleur buteur sur l'année 2023. C'est lui le meilleur buteur.
Il a failli partir en début de saison.
Il a failli, bien sûr, oui, parce qu'il était dans le mal un peu, comme il disait, il avait des problèmes personnels, etc. Et il disait que c'est dans la tête. Un footballeur, tout ce qu'ils font, qui sont bons sur le terrain, etc., c'est dans la tête. Et là, et l'entourage aussi. Et là, du coup, meilleur buteur 2023, il n'y a rien à dire.
Je pense qu'il leur faudra quand même, pour passer un cap encore, un point d'appui en tant que numéro 9. Weghorst, c'est bien, mais je pense pas que tu gagnes l'Europa League.
C'est même pas bien, Weghorst. Voilà. Moi, je te le dis, c'est même pas bien, Weghorst. Parce que là, en tout cas, dernièrement, je regarde les matchs. Franchement, dernièrement, normalement, il marque au moins 3-4 buts, au moins. Il en est à zéro. Que des buts refusés
hors jeu. Même en tant que pivot, il dessert pas bien.
Il dessert pas bien, il dessert pas bien. Ils font le boulot tout seul. Tu vois les buts, non ? Ils font le boulot tout seul.
Mais surtout, Manchester joue mieux depuis qu'ils sont quand même libérés du entre guillemets leadership un peu écrasant de Cristiano Ronaldo. On voit, tu parlais de leadership. Casemiro, il a pris enfin la place de leader qui lui est attribuée depuis qu'il est parti. Voilà, c'est triste de le dire, mais Cristiano Ronaldo, en partant, a vraiment libéré le leadership des autres joueurs. Et on voit un Manchester qui fonctionne très bien et qui joue au ballon. Et il faut rappeler quand même que Barcelone avait énormément misé sur l'Europa League. C'était un objectif de la saison, et là ils sont éliminés, donc
moi je reviens,
c'est quand même une belle perf.
C'est chaque année il dit ça, l'année dernière aussi c'est ce qu'il disait contre Fribourg, et ils sont sortis de manière lamentable, du coup non, c'est pas, voilà, je pense plus en tout cas du côté de Manchester United. Oui et non. Moi, en tout cas, du moins, Casemiro, ok, là, il arrive, c'est une pièce maîtresse, etc. Mais Cristiano Ronaldo, il a fait une saison, c'était pas avec Erling Ten Hag. Et moi, je pense que c'est ça qui a changé. Vraiment, avec Erling Ten Hag, il fallait pas un gros leader comme ça. Il n'arrivait pas à gérer. Il n'a pas beaucoup d'expérience. C'est un très bon coach, mais il n'a pas beaucoup d'expérience. Et c'est très dur de manager un aussi grand joueur. Voilà, c'est très dur.
Il a eu le courage de le mettre sur le banc.
Oui, il a eu le courage de le mettre sur le banc, mais tu as vu comment ça s'est fini. En sachant que s'il joue la Ligue Europa aujourd'hui, c'est grâce à Cristiano Ronaldo. L'année dernière, oui, sur tout le championnat, il finit meilleur buteur de Manchester United. Il marque des triplés contre Tottenham pour gagner tout simplement. Et il leur a remporté beaucoup de points, que ce soit en Champions League ou en Ligue Europa. Voilà,
Ronaldo la question restera le joueur qu'on connaît.
Voilà, la question quand même. Moi, je pense juste qu'il ne rentre pas dans les plans d'Erik ten Hag. C'était compliqué, le management. Et c'est là que ça libère un peu plus les autres. Mais voilà.
Ouais. Et puis, ils ont gagné 2-0 à Manchester United contre Newcastle, la Coupe de la Ligue anglaise.
Voilà, le premier trophée qu'ils remportent depuis 2017.
Alors, sur les autres résultats de Coupe d'Europe de cette semaine, on va quand même revenir sur les autres matchs de Ligue des Champions. Le match du Real qui est allé gagner à Liverpool 5-2.
Ah oui, c'est
super match. Comme on voit assez souvent quand même dans les Ligues des Champions.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Hein, mais oui, enfin, bon, oui, ça prouve souvent. Franchement, un match comme ça, ça fait des années que j'ai pas vu un aussi bon match.
Ah oui,
non, j'avais jamais vu.
Enfin bon.
Ouais, mais Tottenham City, ça reste la première ligue. Tu les vois déjà en première ligue.
Non, en Ligue des Champions.
Oui, en Ligue des Champions, quand il y a eu 4-3. Oui, oui.
Mais Liverpool n'est plus Liverpool. Alors là, c'est fini. Jürgen Klopp doit commencer à préparer les chemises dans la valise parce que.
Non, je pense pas. C'est pas de la faute de Jürgen Klopp. Non, moi, je vois pas ça comme ça. Il y a beaucoup de blessés. Non. Côté Liverpool, il y a beaucoup de blessés. Il y a énormément de blessés. Et même en dehors de ça, les joueurs, tu as l'impression, les leaders comme Salah, il est perdu. Il est perdu. Salah est perdu. Depuis que Sadio Mané est parti, est perdu. Salah est perdu, toute l'équipe. Là, Luis Diaz n'est pas là. Et Luis Diaz avait bien repris le côté gauche. Là, c'est difficile. Ouais, c'est très difficile. Et le Real de Madrid ont été très très bons. Ouais, parce qu'ils perdaient 2-0, revenir à 2-2 à la mi-temps et ensuite, deuxième mi-temps, leur en claquer 3 assez rapidement.
Ouais. C'est fort, c'est très fort.
C'est très fort.
Mais enfin, je pense quand même que depuis le début de la saison, les Reds, c'est plus les Reds.
Les Reds,
c'est une équipe très commune. C'est comme Chelsea. C'est comme Chelsea.
Cette saison, c'est compliqué.
Chelsea est 10e. Du championnat, alors que c'était soi-disant l'équipe qui qui a dépensé des millions d'euros en transfert pendant le mercato. Et ils ont engagé qui ?
Mais faut voir qui.
Près de 600 minutes. Près de 600 minutes sans aucun but.
Plus que tous les pays d'Europe réunis ou presque. Ouais. Non, faut pas exagérer. Bon.
Ouais. Oui, pour revenir sur Liverpool, alors là c'est désolant ce qui se passe, mais il faut pas oublier qu'ils ont perdu, Mané. Alcantara, il revient, il est pas dedans. Ils ont fait de gros recrutements jeunes. Donc je pense qu'il faut quand même leur laisser du temps. Il y a Núñez qui arrive pour quand même 90 millions, donc c'est quand même normal d'avoir des attentes. Il y a aussi Koji Gakpo qui arrive. Donc je pense que ça va être une année de transition. Je ne pense pas que Jürgen Klopp va sauter. Ça restera l'entraîneur emblématique des dernières années pour Liverpool. Oui, il leur fait gagner la Ligue des Champions. Il leur fait gagner la Première Ligue. Je ne pense pas qu'ils s'en sépareront comme ça.
Non. Il n'y a qu'en France où on dit qu'il faut supprimer l'entraîneur.
Parce que Klopp s'est imposé maintenant. Ouais.
Allez, les autres résultats, donc très brièvement, Naples a gagné à Francfort 2-0, l'Inter de Milan qui bat Porto 1-0, donc ça laisse des matchs assez ouverts pour les matchs retour, hein. Et puis Leipzig, Manchester City 1-1. Allez, on en vient au championnat, ce classico. Alors certains ont passé une bonne soirée, d'autres moins bien. Le Paris Saint-Germain a remis les pendules à l'heure en s'imposant assez largement, donc très largement, à Marseille. Oh, 3-0.
C'est une mise au point cinglante. Ouais.
Voilà.
Hein, ils avaient Alors, ce qu'on disait pendant la Coupe du Monde, avec Stéphane Desenclos notamment. Ouais. Ouais. On a bien vu que le seul match que l'équipe de France a raté dans cette Coupe du Monde, c'est le match contre la Tunisie, où elle a perdu 1-0. Il n'y avait pas Mbappé. Bon, tous les matchs où Mbappé a joué, ça a été le carton. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a vu ? Coupe de France à Marseille, pas de Mbappé. Marseille s'est révolté, ils ont marché sur Paris. Mais c'était quoi le Paris de cette époque ? C'était pas le Paris qu'on a vu hier. Bon. Mbappé est rentré hier, il a tout fait au Marseillais. Tout. La défense de Marseille, elle n'a jamais pu trouver la solution. Bon. Igor Tudor, dans la presse, a déjà dit pendant une semaine que c'était le grand entraîneur de l'OM, que c'est que là. Ben, Igor Tudor, hier, était sur son banc et il cherchait dans sa tête qu'est-ce que je vais faire pour changer la tactique.
On remet toi en question après un match, Guy. C'est pas possible. Igor Tudor après un match contre le PSG.
Abou, j'ai écrit dans un papier ce matin qu'il ne fallait pas accabler l'OM parce que les joueurs de Marseille ne sont pas à accabler sur le match d'hier parce que ce qu'ils font depuis le début de la saison, ça prouve que l'Olympique de Marseille est sur la bonne voie et que Tudor a fait un excellent travail. J'ai écrit ça ce matin.
J'irai lire le papier avec plaisir.
Il faut voir qu'hier, il y avait deux équipes sur le terrain, quoi. Mais il y en avait une qui est au-dessus, nettement au-dessus, et puis l'autre qui n'était plus. Bon, c'est tout. Mais ça appelle un constat. Ce qu'on disait pendant la Coupe du Monde pour l'équipe de France, qu'il y avait
une Mbappé dépendance,
et bien il y a la même chose à Paris. Il y a une Mbappé dépendance. Parce que bon, c'est bien qu'il y ait Messi, Neymar, etc., etc. Mais on l'a bien vu, hein, quand Mbappé n'est pas là, le PSG, c'est une équipe moyenne, c'est tout. Bon.
Mais au-delà de Mbappé, je trouve qu'hier soir, il y a eu une véritable révolution dans l'équipe de Paris. On a vu le changement aussi de système, le 3-5-1 a fait énormément de bien, 3-5-2 pardon, a fait énormément de bien à Paris. Le fait qu'il y ait trois défenseurs a permis que Marquinhos se révèle. Pour moi, c'est le meilleur match qu'il fait depuis le début de la saison. Oui, il a fait un excellent match. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de jouer un peu plus haut pour être bon. Et comme il était protégé par Ramos et au début Kimpembe, mais malheureusement ça a pas duré
longtemps. Kimpembe blessé, hein, c'est fini pour la saison.
Mais Danilo le remplace très bien et je trouve que c'est une très bonne solution. Tous les joueurs, même Vitinha qui fait aussi un des meilleurs matchs depuis le retour de la Coupe du Monde. Il fait un match incroyable aux côtés de Verratti.
Oui, c'est la meilleure équipe du PSG, c'est la meilleure équipe du monde. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Maintenant, on va parler de l'équipe en face quand même. J'ai deux, trois coups de gueule quand même à placer sur l'équipe en face. L'Olympique de Marseille. Alors déjà, Igor Tudor. Merci Guy de parler d'Igor Tudor. Le pauvre hier, il se perd complètement. Les premiers changements, ils arrivent trop tard, premièrement. Deuxièmement, l'idée de mettre Tavares à droite pour compenser la vitesse de Mbappé et de Nuno Mendes, ça part d'une bonne intention, mais quand tu vois que ça marche pas, ça marche pas. Nuno Tavares, catastrophique hier. Il y a des supporters marseillais, c'est des gens qui n'aiment pas ce club, qui veulent que la direction mette 20 millions sur Nuno Tavares. On peut pas mettre 20 millions sur quelqu'un qui a deux jambes mais pas de cerveau. Et je le dis de manière très calme, ce mec n'a pas de cerveau. Non, l'action due au 0-0, quand il se présente face à Donnarumma, je suis désolé, il a pas de cerveau, il est pas intelligent. Tous les matchs que je vois de Nuno Tavares, il me fait penser à Nemanja Radonjić. On a ce don à Marseille de recruter des joueurs qui n'ont pas de cerveau, qui ont deux jambes et qui courent très vite mais qui n'ont pas de cerveau. Eric Bailly, le pauvre, depuis le début de la saison, il joue pas. Pareil, Eric Bailly, 8 millions, je lève pas l'option d'achat. Depuis le début de la saison, il est presque pratiquement tout le temps blessé. Et comme on le dit, hein, vous connaissez l'expression, un être vous manque et tout est dépeuplé. Pas de Chancel Mbemba, derrière c'est catastrophique. Balerdi, ça fait 10 ans qu'il est là. Un bon match, un mauvais, un bon, un mauvais, un bon, un mauvais, c'est pas suffisant pour un club comme l'Olympique de Marseille. Gigot aussi qui est blessé, il nous manque. Il fait pas jouer Klose, je sais pas pourquoi. Il nous met à gauche Kolasinac qui sur ce match-là n'a rien à se reprocher. Il met Valentin Rongier dans un rôle hybride. Valentin Rongier au milieu de terrain, c'est très très bon, Valentin Rongier. Mais dans un rôle hybride, c'est compliqué parce qu'il pouvait pas assurer derrière et devant, surtout quand t'as un joueur comme Bailly à côté qui n'en touche pas une. Après, c'est un match compliqué pour nos milieux. Guendouzi, on l'a vu, Veretout. Donc l'OM, c'est quand même une équipe à qui on enlève deux joueurs importants qui sont Gigot et Mbemba, plus la compo de départ qui est mauvaise. Mais moi, je suis pas inquiet pour l'Olympique de Marseille. Il y a le prochain match face à Rennes.
Non, mais pas pour les joueurs seront de retour. Mais pour les honneurs,
oui. C'est la deuxième place qui reste importante pour l'Olympique de Marseille et la qualification en Coupe de France. Faut pas l'oublier quand même. Match en Coupe de France, ils ont éliminé le Paris Saint-Germain. Ils peuvent aller au bout de cette coupe-là. Il n'y a plus le favori de la compétition. Tu deviens automatiquement favori par.
Le problème de Tudor, c'est qu'il s'est retrouvé confronté à un problème avec l'arrivée de Mbappé sur le terrain.
Oui, mais il y a aussi. Mais Guy, on a vu le match aller. Mais non.
Tu ne peux pas improviser une tactique avec un joueur.
Mais je suis totalement d'accord avec toi. Sur ça, je suis totalement d'accord avec toi.
Lui-même est imprévisible. Comment veux-tu?
Non, mais sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais on l'a vu au match aller. Mbemba, il faisait très bien le travail sur Kylian Mbappé. Malgré la défaite, Mbemba, il a su très bien gérer Kylian Mbappé.
Il a fait le travail pendant 30 minutes, pas pendant un match.
Ouais, mais il. Non, mais sur le match aller, je ne parle pas du match de Coupe de France. Mbemba, il a très bien fait le travail sur. Là, c'est pas pareil.
Il pouvait pas être là hier.
Non, mais le problème que ça, c'était deux meilleurs défenseurs centraux qui sont pas là.
Ouais, c'est ce que je te dis. Il est suspendu.
Tu as commencé ton propos en disant Igor Tudor s'est perdu hier, mais à partir du moment où il ne peut pas mettre Mbemba et il ne peut pas avoir Gigot, comment tu fais?
Il y a d'autres tactiques possibles. Tu mets pas Tavares à droite, il a joué toute la saison à gauche, tu le mets à droite. Ce mec n'a pas de cerveau à gauche, c'est pas à droite qui va s'en récupérer un. Tu mets pas Tavares à droite.
Oui,
l'idée, moi je pense que le problème de Tudor, c'est qu'il n'arrive pas à changer de tactique. Il est sur son 3-5-2 et il veut pas bouger de ça. Normalement hier, tu passais une défense à 4. Tu mets Bailly, malheureusement, ouais, tu mets Bailly, Balerdi dans l'axe, Kolasinac à gauche, Klose à droite.
Ouais, mais Bailly, Balerdi dans l'axe, ils vont prendre la marée aussi.
Abou. Ouais, mais c'est différent.
Abou.
Mais que ça change pas.
Abou, il aurait fait une défense à
Tavares à droite,
Abou, il aurait fait une défense à 4, t'aurais dit la même chose.
Non, Tavares à droite, c'est pas possible.
T'aurais dit la même chose.
Mais
qu'il soit à droite ou à gauche, ça ne change strictement rien.
Non, c'est pas la même chose.
Rien du tout.
On a vu le match hier, Tavares à droite, c'est pas possible.
Abou, la seule différence, pourquoi vous avez gagné en Coupe de France, c'est parce que Mbappé n'était
non,
pas là.
En début de saison,
en début de saison, je te l'ai dit, si tu t'en souviens bien. Je t'ai dit, on joue en équipe, en tout cas en Ligue 1. Tous les clubs en Ligue 1 et en Europe, en tout cas beaucoup en Europe, avec Kylian Mbappé, le PSG les bat. Sans réduire. Kylian Mbappé. Je t'ai dit, alors contre Marseille, tu mets même 10 bouts de bois avec Kylian Mbappé, on gagne.
Mais réduire pas, non, mais le match en Coupe de France. Okay. Réduire le match en Coupe de France à l'absence de Kylian Mbappé, c'est pas possible. Quand on voit les matchs qui a fait Rongier, Veretout, Alexis Sanchez, même techniquement, les mecs, ils étaient archi pressés. On peut pas réduire au fait. Ouais, juste, il n'y avait pas Mbappé. Alors le PSG, c'est que Mbappé.
Abou,
c'est encore plus inquiétant pour le PSG.
Oui, c'est inquiétant.
Parce que t'as des équipes derrière qui vont pas défendre avec Bailly. Qui vont pas défendre avec Bailly et Tavares à droite.
Abou, c'est inquiétant, mais c'est un fait. Sans Kylian Mbappé, le PSG, c'est très difficile.
Parce qu'on a vu des matchs où Kylian était là cette saison, le PSG a quand même perdu. Donc,
on n'a jamais dit ça, mais avec la manière, Abou, tu vois les matchs. Toi-même, tu vois la différence quand Kylian Mbappé est là.
On verra le prochain match.
Et quand
on verra ce que ça donne au prochain match.
Mais arrête, là, hier, on a vu la démonstration. T'as vu ce que Kylian Mbappé a fait hier? Il aurait pu mettre un triplé.
Mais là, on parle
facilement.
Kylian Mbappé, est-ce que ça le remet en cause?
Non, mais tous les joueurs
remet en cause le fait que Kylian Mbappé soit un joueur de foot formidable.
Non, mais au-delà d'être formidable, il change tout dans son équipe parce qu'il fait reculer l'équipe adverse.
Personne remet ça en cause.
Mentalement, il change, je pense, la façon de voir.
Personne remet ça en cause. On l'a même vu son entrée contre le Bayern. Personne ne remet ça en cause. Mais réduire le match de l'Olympique de Marseille en Coupe de France à Kylian Mbappé.
Non, mais il a emmené. Mbappé a emmené avec lui ses coéquipiers.
Ah, bon, pas ça.
Écoute
ce qu'on te dit. Écoute ce qu'on te dit.
Il écoute pas ce qu'on
dit. Bah, non.
Bah, si, c'est Coupe de France. En Coupe de France, vous avez gagné. Il n'y a pas de problème.
Comme ça,
non, en Coupe de France, vous avez gagné.
Laisse-nous te répondre. Laisse-nous te répondre. Je pense qu'on va redire les choses très simplement. Effectivement, Mbappé change la donne. Le match en Coupe de France, l'Olympique de Marseille a fait un excellent match dans le pressing, dans l'organisation. Mais je le répète, tu avais Chancel Mbemba, qui je pense est actuellement le meilleur défenseur central en Ligue 1. Quand il n'est pas là, eh ben, t'es pas bien derrière. Et Gigot, c'est pas un grand technicien, mais au moins il met de l'impact. Là, tu te retrouves avec Balerdi, qui je pense n'est pas titulaire à Lorient. Et Eric Bailly, le pauvre, franchement, il l'a envoyé au casse-pipe. Il avait pas joué, il avait pris 7 matchs. Combien il a pris de
matchs Je crois. C'est ce que j'ai dit au début de mon propos. C'est ce que j'ai dit au début de mon propos.
Donc,
j'ai commencé mon propos par ça.
Il y a deux choses. Un, tu n'as pas tes deux meilleurs défenseurs centraux, donc tu es quand même limité. Et deux, bah, Mbappé, quand il a envie de jouer, bah, c'est inarrêtable actuellement en Europe. Et tu n'as qu'à voir, même contre le Bayern Munich, quand il rentre, le Bayern a reculé de 20 mètres.
C'est ce que j'ai dit aussi. C'est ce que j'ai dit aussi. Tu t'en rappelles, Eric Bailly, quand il avait pris les matchs d'hier
est encourageant.
Oui, pour le match contre le Bayern.
Tu t'en rappelles, quand Mbemba, il a pris, quand Eric Bailly a pris un carton rouge et il a pris 7 matchs de
très
suspension.
Très beau carton rouge, d'ailleurs.
Oui. Oui,
belle action.
Et tu t'en rappelles, quand tu le défendais, tu passais ton temps à le défendre. Et je te disais qu'Eric
Bailly n'a même pas... Ne pas... sois pas de mauvaise foi, dis pas, il passe son temps à le défendre.
Je passe pas mon temps à le défendre. Eric Bailly, en soi, c'est pas un mauvais défenseur central. C'est juste, c'est pas un mauvais défenseur central, Eric Bailly. C'est juste
quand il veut jouer.
Quand il manque de rythme.
Quand il veut jouer.
Mais il manque de rythme.
Il manque de rythme. Et
il a le meilleur joueur au monde. Il a le meilleur joueur au monde à marquer.
Bah voilà,
donc on revient sur le... C'est pas Eric Bailly, c'est pas le problème, c'est pas le niveau d'Eric Bailly. Non, c'est pas un mauvais défenseur central. Non, Eric Bailly n'a jamais été un mauvais défenseur.
À court de rythme.
Même à Manchester United, les peu de fois où il jouait, on a toujours trouvé très bon Eric
Bailly. Non, c'était Koussi Koussa.
C'est faux.
C'est pas un mauvais
match.
C'est soit un carton rouge, soit un bon match. Soit un carton rouge, soit un bon match.
Il peut être très bon.
Mais oui, c'est pas un mauvais défenseur central.
Il peut être très nul.
Mais hier, il manque de rythme.
Il fait sa rentrée face à Mbappé et Messi.
Et
quand tu fais ton entrée face au meilleur joueur du monde, forcément, c'est compliqué pour toi.
Il est inarrêtable, Mbappé. Qui l'arrête aujourd'hui? Il est injouable.
Donc, Eric Bailly n'est pas un mauvais défenseur central. Mais quand tu joues face au meilleur joueur du monde, forcément, tu souffres.
Juliette, et ensuite on passe aux
autres. Moi j'aurais aussi vouloir pu finir parler de Paris. Au-delà de Mbappé, je trouve qu'il n'y a pas que Mbappé dans l'équipe. Hier, tout le monde s'est révélé. Donnarumma a fait des arrêts fantastiques. Et je pense que depuis le début, le retour de la Coupe du Monde, il fait quand même beaucoup d'arrêts et il est très précieux. Donc c'est de bonne augure.
Non, je ne suis pas d'accord, Juliette. Oui. Là, moi, je suis le premier à cartonner Donnarumma. Hier, il a fait un très bon match. C'est ce qu'on attend quand on l'attend dans des gros matchs. Contre le Bayern, il a fait un match de merde. Contre Lens, il a fait un match de merde. Oui, contre le Bayern, il a fait un match de merde. Mais. Vous avez vu le but qu'il a pris? Le but qu'il nous a pris, à part ça, il n'y avait pas d'action. Hey, un grand gardien, ce qu'on attend, c'est qu'il fasse des grands arrêts. Des arrêts décisifs, qu'il soit décisif. Courtois peut décider d'un match. Tu vois, Courtois, c'est un grand gardien. Il peut décider d'un match. Comment?
Contre Liverpool, il a
C'est une boulette. T'oses sortir ça en finale. T'as vu la finale de Champions League?
Exactement.
Est-ce que tu as vu la finale de Champions League? D'accord. C'est grâce à qui que le Real de Madrid gagne? C'est grâce à qui que le Real de Madrid gagne? Honnêtement, c'est grâce à Thibaut Courtois. C'est grâce à Thibaut Courtois. J'ai pas vu un seul match de Champions League où on gagne et c'est grâce à Donnarumma.
Non, je suis d'accord.
Voilà.
Mais il y a une chose que Juliette aussi a soulevée qui est intéressante. Elle a dit effectivement le PSG contre Marseille a très bien joué. Et là, j'ai une question à poser à tout le monde. Je voudrais avoir votre avis. C'est que j'ai l'impression quand même que Galtier a retrouvé un équilibre avec ses deux devant et que tout de suite, dès qu'ils sont à trois, et notamment. Avec mon Neymar, désolé, c'est pas ma tasse de thé. Neymar, je pense, n'a plus envie de jouer au football. On voit quand même que ça joue mieux quand Neymar
c'est
n'est pas
à 2,
là. 4,
3,
c'est quand même un paradoxe. C'est quand ils sont à 3, il y a un déséquilibre. Et Neymar, là, ne manque à personne et ne manque surtout pas à ce PSG, j'ai l'impression.
Et au-delà même du déséquilibre, je pense que les joueurs comme Vitinha, ça leur fait du bien quand Neymar n'est pas là. On l'a vu le match contre Lille, contre Monaco, où il y a la brouille Vitinha-Neymar. Vitinha, hier, il a été très bon. Je pense qu'il y a un truc aussi, quand Neymar n'est pas là, t'es un peu plus libéré. Après, moi, j'attends aussi de voir quelques matchs. Et c'est toujours triste de se dire qu'un joueur comme Neymar, vaut mieux le mettre sur le banc. Genre, moi, ça me fait mal au cœur de me dire ça. Ça reste quand même Neymar. Tu te dis qu'il peut faire la différence à tout moment. Donc, attendons de voir le PSG sans Neymar d'ici 2-3 matchs. Et moi, j'espère en tout cas, quand il va revenir, qu'il va réussir à être bon avec les deux autres, parce que ça reste quand même trois joueurs d'exception.
Ouais, mais j'ai peur que tu aies un vrai, excuse-moi Juliette, mais je pense qu'il y a un vrai déséquilibre quand ils sont tous les trois. Oui. Défensivement, tu sais, c'était Abdelhamid. Comment il s'appelle, le défenseur de Reims
Abdelhamid.
Abdelhamid, pardon. qui presque bah, s'était moqué, mais avait dit bah, c'est facile hein, de relancer avec eux, ils font pas de pressing. Donc quand on a deux, ça va, mais quand on a trois, t'as un déséquilibre. Et Vitinha, effectivement, psychologiquement, certainement été touché parce que quand tu te fais pourrir tout un match, c'est difficile de t'en remettre, même si t'es un international. Mais surtout, en étant à deux, ils ont plus d'éléments au milieu de terrain, donc c'est plus facile pour s'exprimer.
Et c'est exactement ce que je disais la semaine dernière quand Neymar s'était blessé. J'avais dit que pour moi, j'étais pas forcément triste qu'il soit blessé, et vous m'aviez dit que j'avais pas le droit de dire que Paris jouait sans Neymar.
Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'on pouvait pas se réjouir de sa blessure.
Moi, je te le dis.
C'est ce qu'on a dit.
Je me suis jamais réjoui de sa blessure.
Non, on a dit qu'on pouvait pas se réjouir de la blessure. On a pas dit que Paris jouait pas mieux sans Neymar. Attention, on a dit que on peut pas se réjouir de la blessure d'un joueur comme Neymar qui peut faire la différence à tout moment.
C'est ce
qu'on a dit.
Pour moi, que bon, je préfère quand même qu'il y ait Messi à côté de Mbappé, mais pour moi, que ce soit Messi ou Neymar, Mbappé est le point principal. Il faut juste qu'il soit accompagné d'un joueur, que ce soit Messi ou Neymar. Le duo, tant qu'ils sont deux, ça marche très bien, je trouve.
Allez, on va donner les autres résultats, donc les principaux résultats hein, de cette journée de championnat. Lille qui bat Brest 2-1, la victoire de Lyon, Guy à Angers 3-1, Montpellier-Lens 1 partout, Auxerre qui va gagner à Lorient 1-0, Rennes qui va gagner à Nantes 1-0, et puis nul entre Ajaccio et Troyes. Non, victoire d'Ajaccio, pardon, devant 3-2-1, et nette victoire de Nice à Monaco 3-0. Donc au classement, on l'a vu, Paris 60 points en tête, devant Marseille 52, 3e Monaco, Lens 50 et 4e Rennes 44. Et en bas de tableau, 15e Strasbourg 22, 16e Auxerre, Ajaccio 21, 18 Brest 20, 19 3, 19 et 20e donc Angers avec 10 points. C'est serré en bas quand même. Hein.
Ouais. C'est serré en bas comme en haut.
Tout à fait.
C'est serré en bas comme en haut.
Pour les places d'honneur et puis en bas.
Après Lens hier, ils ont loupé le coche vendredi parce que normalement. Ouais. Ils gagnent et là, ils sont revenus à hauteur de Marseille. Ils loupent un peu le coche, mais bon, Monaco, ils ont loupé le coche aussi. Ils sont
mais c'est pas anodin, Lens, je trouve, parce qu'il y a trois mois, ils n'auraient pas loupé le coche. Ouais, quoi. Et là,
moi, Lens, ça m'inquiète sur la fin de saison. Lens, j'ai peur que ça finisse comme la fin de saison dernière.
Ils ont un effectif limité aussi.
Ouais, voilà, ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir. Ils n'ont pas beaucoup de marge. Mais ça va être serré pour la deuxième place. Hein, il y a un match important là ce week-end, Marseille qui va à Rennes. Il va y avoir beaucoup de matchs importants.
On en parlait avec Gilles.
J'ai pas gagné pour Marseille.
C'est clair.
Allez, on va s'intéresser à la Ligue 2, hein, le Paris FC, donc 25e journée. Notamment donc, le Havre qui va faire nul à Grenoble 0-0. Victoire de Sochaux devant Annecy 5-1. Et le Paris FC donc, qui a battu Niort 3-0. Saint-Etienne, LHJ, a aussi battu Pau 2-0. Ce soir, il y a Amiens-Bordeaux à 20h45. Donc le Havre en tête avec 52 points. Devant Sochaux, deuxième 44. Troisième Bordeaux 41 et Metz aussi 41. Et donc le Paris FC est en milieu de tableau, 11e. Paris FC, Guingamp et puis Laval 31 points. Et en bas de tableau, donc Saint-Etienne 15e avec 30 points, 16e Pau 27, 17 Dijon, Nîmes, Niort 23 et 20e et dernier Rodez 22.
C'est terrible Dijon, Nîmes quand même. Oui. Encore 4-5 ans, ils étaient en Ligue 1, il y avait du potentiel, ils sont totalement effondrés. Saint-Etienne, ils ont vraiment ils ont un effectif et un budget de Ligue 1, donc ils vont sauver largement.
Dijon avait même battu le PSG.
Dijon et Nîmes, il y avait quelque chose, mais bon, ils ont complètement loupé leur politique sportive et ils le pécachent, quoi. Donc c'est des clubs qui sont en danger. Maintenant, il faut souligner le très beau travail de Mathieu Bodmer au Havre, où le Havre était toujours une équipe qui finissait entre la 5e et la 9e place, avec toujours de très bons jeunes. Là, il a réussi à mettre quelque chose en place avec l'ancien entraîneur Damien. Comment il s'appelle jeune-là, j'ai oublié son nom.
Genère,
voilà, exactement, qui fait du très bon boulot. Ouais. Et ça serait bien de revoir le Havre. Moi qui ai maintenant un certain âge par rapport à ces jeunes, on a connu le Havre en première division.
C'est le plus ancien club. Hein.
C'est le club d'Oyen.
C'est le club d'Oyen.
Le plus ancien club de Ligue 1.
Créé par les Anglais.
Petite parenthèse, JB, tu parles d'entraîneur. Je déborde peut-être, tu vas me dire, Philippe, s'il faut arrêter avec ce sujet-là. Mais pour venir sur la Ligue 1, il se passe quand même un truc de fou, je trouve, avec les deux jeunes coachs là, de Nice et de Reims. C'est incroyable ce qui est en train de se passer.
Il n'a même pas la licence de coach. Il paye 25 000 euros chaque match.
Ça fait 17 matchs que Reims n'a pas perdu.
Et vous savez pourquoi les couleurs du Havre sont bleu clair et bleu marine?
Alors, il y a une histoire avec des universités ou des clubs anglais. Et c'est
ce sont les Anglais, effectivement.
C'est les Anglais, c'est ça qui est
le Havre. Mais les couleurs, c'est Oxford, Cambridge.
Cambridge, pas Canterbury. Cambridge, exactement. C'est vrai.
Ok. Allez, on passe au national, 22e journée. Donc, le Red Star battu à domicile par Avranches 2-1. Marty qui va gagner à Sedan 1-0. Et notre Paris Atlético 1-1 devant donc, Le Mans. Alors que ce soir se joue un décisif Versailles-Concarneau à 21h. Donc, c'est Marty qui est en tête avec 40 points devant Versailles, 2e 39, 3e Red Star 35. Concarneau, Sedan, Cholet, donc à la 4e place avec 33 points.
C'est sur quelle chaîne, Versailles-Concarneau?
Oh, ça doit être sur, sur la chaîne ETV de la Fédération
ouais,
française
ça,
de foot.
C'est sur le site de la Fédé, ouais.
Ouais, c'est ça.
C'est beau ce qu'ils font, Versailles.
Oui, oui, oui.
Ah, bah, oui. C'est Chris, le coach, c'est ça, maintenant?
Oui, oui.
Ah,
oui,
oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Ah, bah, ils ont un budget de fou.
Par contre, Arribar est parti.
Ouais, mais c'est bien quand même parti.
Ils vont monter, ça fait bien en Ligue 2.
Ouais, c'est bien. Bah oui, non, mais c'est pour ça.
Ce serait bien.
Bien sûr.
Bah, c'est bien, ils suivent leur belle épopée depuis la Coupe de France. Et
donc, tu auras peut-être le temps de voir le match en rentrant en Guy.
Tu as raison, il y a un sacré budget parce qu'il y a même un ancien international néerlandais. Ouais, c'est incroyable.
Oui,
c'est
voilà.
Ils ont des salaires autour de 20-25 000 euros, les gars. Si, si, c'est du. Si, si, c'est des salaires énormes à Versailles.
Ah, ouais. Bon, au moins, ça suit derrière. Quoi.
Oui, au moins, ça suit, parce que parfois, ça suit pas.
C'est royal.
Oui, exactement.
Allez, en bas,
s'ils cherchent un joueur. Hein,
en bas de tableau, donc 15e, Le Puy et Saint-Brieuc avec 20 points. 17e, Le Paris Atlético, donc 18 points. Et 18e, Borgo, 17 points. Là, bon, bah, toutes les semaines, c'est pareil.
Un moment. Non, mais ça fait déjà depuis un moment.
Oui,
je pense qu'on va arrêter de s'arrêter dessus.
C'est dur, les pauvres. Voilà. Ils n'ont pas de budget, c'est déjà un miracle qu'ils soient là.
Et troisième entraîneur. Hein.
Ouais, voilà. Ouais, mais bon, ils essaient des choses. Je pense qu'il n'y a pas de budget. Ils font comme ils peuvent. Là, le haut de tableau, c'est plutôt le Red Star et c'est Versailles.
Oui.
Et eux, ils sont arrivés là. C'est déjà très beau d'être arrivés là. Voilà, j'espère que ça va. Il y a des jeunes qui se sont révélés, qui vont pouvoir rester en national, voire monter. En Ligue 2, ça serait bien, parce que c'est des beaux clubs formateurs, tout ça.
Allez, juste un petit mot sur les féminines, 15e journée. Donc, Paris FC qui va gagner à Reims 3-0. Lyon qui bat Bordeaux 3-0. Et victoire du Paris Saint-Germain à Dijon 4-0. Donc, Dijon en tête avec 40 points. Devant le PSG... Lyon, en tête avec 40 points. Devant le PSG, 2e 39. 3e PFC 38. Et 4e Fleury, 28 points. Juliette, un petit mot à rajouter. C'est toujours le duel Lyon-Paris Saint-Germain.
Bah, y a toujours rien qui change, comme je le dis toutes les semaines, ce qui changera, ce sera la confrontation directe entre les deux clubs. Donc, pour l'instant,
voilà. Alors, je sais qu'il y a des problèmes au sein de l'équipe de France de foot actuellement.
Bien, Philippe,
non, mais on va en parler quelques minutes. Donc, on va en parler, Juliette. Ton impression sur cette équipe de France, hein, qui finalement, c'est les joueuses qui s'en vont, qui décident de ne pas continuer avec Corinne Diacre.
Donc, je rappelle un peu les événements. Donc ce week-end, Wendy Renard a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle décidait de prendre du recul par rapport à la sélection et qu'elle reviendrait peut-être, mais pas tant qu'il n'y aurait pas de changement de management au sein de la fédération. On suivi Diani, Katoto, Perle Moroni et Grigenbock. Donc c'est quand même une décision assez qui crée un véritable tremblement de terre à juste 5 mois de la Coupe du Monde. Moi, mon avis, c'est que, mon avis personnel, c'est que il était temps. Pour moi, ça fait déjà bien longtemps que ça aurait dû être le cas et que j'espère que ça va faire bouger les choses parce qu'on attend depuis bien longtemps que ça bouge.
Ouais. Guy, toi qui as bien connu Noël Le Graët, il va s'en aller demain ?
Oui, je pense qu'il va s'en aller. Je crois pas. Il n'y a pas d'autre issue.
Le président Hollas qui a fait une déclaration pour dire que Noël Le Graët, c'était ça la meilleure chose à faire pour
Le problème, c'est qu'il y a un ensemble chaotique au sein de la Fédération française de football. Et ça rejaillit sur les féminines, sur les amateurs, sur beaucoup de secteurs, y compris sur le secteur, d'organisation elle-même de la fédération. Je pense que Le Graët ne peut pas rester. Je pense.
Moi, j'ai un léger coup de gueule sur les féminines. Léger coup de gueule.
Ouais, parce que
rapidement.
Moi, je trouve ça, à titre
personnel, c'est un débat que j'ai avec Juliette, à titre personnel, honteux de prendre en otage une sélection. Dire je viens plus en sélection tant que c'est elle la coach, pour moi c'est prendre en otage une sélection, ça se fait pas. C'est comme Naïsna en 2010, ça se fait pas. Pour moi c'est honteux. La France est au-dessus de tout ça. Quand tu joues pour l'équipe de France, tu joues pas pour toi, tu joues pour une nation, une patrie, un pays, tu joues pour 67 millions de Français. Et je trouve ça honteux de prendre en otage une sélection. Et c'est parce que c'est des féminines que ça fait pas autant de bruit que ça. Les hommes auraient pris la même décision, ça aurait fait éclaboussure partout. Il y a la ministre qui serait descendue venir parler à l'Assemblée et dire que c'est des racailles, etc., etc. Donc je trouve ça honteux, bien que je comprenne qu'on en est marre de Corinne Diacre et que c'est plus la femme de la situation. Mais le faire de cette manière-là, je trouve ça honteux.
Allez, Juliette.
Je vais juste faire une nuancée. Ouais. Effectivement, le procédé n'est pas terrible, je te rejoins. Après, ce que Juliette n'a pas dit, mais Wendy Renard, quand même, elle déclare que psychologiquement, elle est atteinte. Là, on parle de grave dépression. Moi, j'ai connu Corinne Diacre quand elle était adjointe de Bruno Bini. Ça se passait plutôt bien. Elle, après, elle allait à Clermont, ça s'est bien passé. C'est vrai que ce qu'on lit depuis 3-4 ans maintenant qu'elle a la tête de cette équipe de France, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'embrouilles. On a eu des problèmes avec Amandine Henry, il y a eu des problèmes récurrents avec Wendy Renard. Je pense, et c'est là où on se rejoint avec la Fédé et le Gret, que peut-être il y aurait dû avoir des réactions de la part des dirigeants pour stopper tout ça. Et là, on arrive à un point de non-retour. Alors oui, effectivement, c'est pas terrible de prendre en otage comme ça la sélection, mais j'ai l'impression quand même que ces jeunes femmes, et notamment pour que Wendy Renard dise ça, parce que pareil, Wendy Renard, moi je l'ai connue, on suivait les féminines à l'époque avec Direct 8, avec Alexandre Delperrier et Thierry Schellmann, alors directeur des sports. Wendy Renard, elle était toute jeune, elle était adorable, elle était solide dans la tête. Et c'est quand même la capitaine à Lyon, c'est une sacrée joueuse. Et là, qu'elle te dise que psychologiquement, elle est atteinte, c'est quand même un sujet important.
Oui, il y a
et le problème que tu as, c'est qu'à la Fédé, il n'y a plus personne à la tête du navire. Donc les joueuses prennent elles-mêmes les devants et font
À mon avis, elles ont voulu créer un choc, parce que ça mobilise quand même beaucoup de personnes à la fédération sur cette histoire-là. Je pense que si le Gret s'en va, qu'il y ait une nouvelle gouvernance,
c'est terminé.
Corinne Diacre partira aussi parce que bon.
C'est les meilleures joueuses en plus.
Il y a eu un problème.
Le génie Les Sommaires aussi. Non, moi je suis totalement d'accord. Je pense que c'est plus la femme de la situation. Donc, c'est vraiment la méthode.
Le
problème c'est qu'elle a fait preuve d'une autorité peut-être trop stricte par rapport à des filles qui ne demandent peut-être pas ça, quoi. Elles ont besoin d'être un peu chouchoutées quand même. Et je vois pas Corinne Diacre être très chouchouteuse avec. Bon, alors.
Allez, Juliette, et après on va faire envoyer la pause musicale à Jason.
On dit que c'était pas la meilleure manière de le faire. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais Wendy Renard, dans une interview, explique qu'elle a prévenu son président Noël Le Graët plusieurs fois avant. Elle a voulu prendre rendez-vous avec lui, celui-ci a refusé. Elle a pris rendez-vous avec le nouveau président par intérim qui l'a reçu et elle l'a prévenu déjà il y a bien longtemps qu'elle arrêterait sa carrière internationale après le tournoi de France. Corinne Diacre était aussi au courant, elle n'a jamais souhaité recevoir sa capitaine en rendez-vous, ce qui est quand même assez grave. Normalement, on est censé entretenir une relation de confiance avec sa capitaine et elle n'a jamais fait quelque chose dans ce sens-là. Donc, ce n'était pas la meilleure manière de faire, mais c'était sûrement la seule manière.
Très bien. Allez, la pause musicale avec donc Charles Aznavour, Mourir d'aimer. Et ensuite, on va écouter la rubrique de Stéphane et on parlera ensuite du sport épique.
Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Pour moi qu'un refuge, toute issue m'étant condamnée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit. Pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Mourir d'aimer, vainqueur d'une défaite. Renverser toutes les données, mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on ne peut de n'importe quoi, abandonner tout derrière soi. Le printemps, moi l'automne, mon cœur se prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée, mourir d'aimer.
Voilà, allez, pour finir sur le chapitre foot, bah, on va écouter la, donc, la rubrique de notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors mon regard sur la victoire du PSG hier soir au Vélodrome, il est entre coup de cœur et coup de gueule. Coup de cœur d'abord parce qu'en passionné de football, j'ai aimé ce match, comme j'avais aimé le match de Coupe de France il y a 3 semaines. Je l'ai aimé parce que ça fait plaisir de regarder un match en se disant que tout est possible, même si ça peut paraître déplacé de dire ça quand on voit le résultat bien sûr. Mais sincèrement, au bout d'un quart d'heure, on sait juste que le PSG répond présent, mais pas que l'OM va prendre une fessée. On se dit que l'on va avoir un bon match de foot. Alors bien sûr, oui, quand vous êtes plutôt pour le Paris Saint-Germain, la suite du match vous ravit encore davantage. Mais ce n'est pas la première raison. Vous êtes surtout content parce que vous aimez le foot. Le coup de gueule, il est pour Igor Tudor, mais pas seulement. Franchement, qui aurait mis en place la même tactique que lors du match de Coupe de France 3 semaines plus tôt, alors qu'il y avait cette fois-ci le retour de Kylian Mbappé. Alors ce que je dis, c'est que le technicien croate a été un peu limite sur ce coup-là. Il a tout simplement succombé à un excès de confiance, un peu comme une grande partie des supporters qui parlaient déjà de doubler Coupe Championnat. Je ne parle pas d'être prétentieux. Même les observateurs, les consultants et les commentateurs, combien ont dénoncé la tactique de Tudor avant le match? Combien ont affirmé que l'OM ne pouvait pas jouer comme en Coupe de France? Aucun. Jusqu'à hier soir, c'est l'OM qui était à la mode et Tudor avait tous les droits, même celui de bafouer le football en sous-estimant le PSG de Kylian Mbappé. D'ailleurs, au passage, ça fait plusieurs matchs qu'il laisse pointer des manques tactiques, l'entraîneur de l'OM. Il y a d'abord eu Nice avec un premier 11 hallucinant pendant 45 minutes, puis il y a eu Toulouse, puis enfin le PSG avec des choix très discutables au coup d'envoi, Klose par exemple qui était sur le banc. Contre Toulouse, tu reviens. Mais contre le Nice de Digard et le PSG de Mbappé, tu ne reviens pas. On arrive à mon gros coup de cœur du moment, l'OGC Nice, et plus particulièrement le Nice de Digard. Depuis la 18e journée et la prise de fonction de l'ancien joueur de la maison, les Aiglons ont pris 20 points en 8 matchs, soit plus que toute autre équipe en Ligue 1. 3 de plus que Monaco, 4 de plus que l'OM et le PSG, mais surtout 10 de plus que Lens sur la même période. Au passage, quand tu vois que Nice a acheté Terem Moffi pour environ 15 millions d'euros, quand l'OM a mis 32 millions pour Vitinha, tu te poses quand même de sérieuses questions. Mon gros coup de cœur, c'est aussi pour Wendy Renard et le courage de la capitaine des Bleus qui claque la porte à l'équipe de France avec un message clair et net. Si vous voulez que je revienne, virez Corinne Diacre. Elle l'a pas dit, mais bon, elle l'a pensé très fort. Du jamais vu, à 5 mois de la Coupe du Monde féminine et la plus grande joueuse française de l'histoire, et pas seulement par la taille, hein, et suivi par d'autres cadres. Les messages de soutien se multiplient. Corinne Diacre ne peut plus se cacher derrière Noël Le Graët. Et comme papy, elle va devoir prendre la porte. Bon débarras, parce que si Corinne Diacre n'est pas souriante, si elle n'est pas charismatique et qu'elle s'est mis la majorité des internationales à dos, elle a surtout un énorme défaut, elle ne gagne pas. On l'a vu lors de la Coupe du Monde en France ou à l'Euro, dès que le niveau s'élève, les Bleus s'abaissent. C'est peut-être parce que pour gagner, Il faut un minimum de cohésion dans l'équipe, entre le staff et l'équipe, entre les stars de l'équipe et l'équipe. Le PSG est bien placé pour le savoir, et s'il a compris la leçon qu'il a lui-même donnée au Vélodrome hier soir, il peut même espérer se qualifier à Munich dans 10 jours.
Voilà. Voilà pour la, donc, pour la rubrique de notre ami Stéphane, hein, qui complète notre chapitre Pitfoot. Dit, c'est tout. On a un petit quelque chose
non,
à,
je crois qu'il a tout
à
dit.
Rajouter. Hein. Il a tout dit, Stéphane.
Il a tout dit. Il a tout dit.
Allez, eh ben justement, on va passer sur donc, les courses hippiques et la chaîne Ekedia, représentée donc, par Anthony Roy et Jean-Baptiste Bagaria. Anthony, d'abord, comment. Et de quand date cette passion pour les chevaux d'abord.
Voilà, de longtemps, ouais. De petit en fait. Alors, on y vient souvent par des relations familiales ou par des amis, etc. Et c'est, moi, ça a été un peu ce cas-là. Je vivais dans un endroit de la France où il y a beaucoup de chevaux, le nord-ouest de la France, juste à côté de la Mayenne.
Ah oui, effectivement,
c'est une terre vraiment chemin, où il y a beaucoup d'écuries, beaucoup de courses, beaucoup de petits hippodromes champêtres où c'est un peu la fête du village quand on s'y rend. Et donc toute cette ambiance m'a plu, j'avais des connaissances plus ou moins proches qui baignaient un petit peu dans ce milieu-là, qui m'ont emmené aux courses et ça m'a tout de suite plu. Il y avait l'aspect spectacle, je dirais, mais aussi l'aspect Paris qui est très présent dans cet univers et qui m'a tout de suite attiré aussi. Et après, voilà, je ne sais pas pour qui, pourquoi, mais ça m'a pris très fort et ça ne m'a jamais quitté. Voilà. Et donc, j'en ai fait mon métier par chance, je dirais, et ça fait maintenant un peu plus de 15 ans déjà. Ouais, ça fait 16 ans, je crois, que je suis à Ekedia.
Et tout de suite dans le journalisme hippique. Il n'y a pas eu comme Jean-Baptiste ou bifurqué.
Non, il n'y a pas eu. Non, j'ai pas bifurqué comme Jean-Baptiste. Bah, en fait, j'ai eu l'opportunité d'accéder à ce qui était un peu mon rêve, parce que c'était mon rêve clairement de pouvoir travailler dans cet univers et sur la chaîne Ekedia qui offre pas mal de possibilités, qui fait de très belles choses, des reportages. Enfin voilà.
On va en parler. Ouais.
Quand on aime les courses et qu'on regarde Ekedia, enfin moi c'était mon cas, j'avais pas de famille dans ce milieu, j'avais pas de contact, je pensais même pas pouvoir y accéder. Je me disais c'est génial, mais j'ai jamais pensé pouvoir en faire mon métier. Et quand j'ai eu cette opportunité là, bah je l'ai saisie et je l'ai jamais surtout lâché. Mais en effet, donc j'ai fait que le journalisme. Il pique, c'est pour ça que j'ai laissé parler tout à l'heure.
Oui, oui, mais enfin. Ouais,
le brillant Jean-Baptiste qui lui a fait du foot même, un peu. Je suis de loin,
brillant, ça c'est. Jean-Baptiste.
Je suis pas aussi expert.
Ouais, on bifurque du journalisme sportif au journalisme hippique, mais enfin, il faut être quand même passionné.
Oui, et puis surtout, moi, ça a été une opportunité qui m'a été donnée. J'ai rencontré Anthony avec qui je forme un binôme, un duo formidable chez Ekedia. Et tout de suite, Anthony m'a transmis pas mal de choses, notamment sa passion du trot, parce que j'avoue, même si j'aime le galop et l'obstacle, c'est vrai que je prends plus de plaisir à suivre le trot avec le meeting d'hiver là, qui se termine prochainement à Vincennes, où il y a eu de très très belles courses cet hiver. Un grand plaisir de suivre les courses et on est très heureux de venir en parler ici avec vous, avec des jeunes journalistes.
Oui.
Parce que on en parle de plus en plus et Ekedia commence à prendre de plus en plus de place. On a la chance d'avoir des super partenariats, notamment avec M6. Mmh. Désormais, on est dans Sport 6 tous les week-ends. Et ça, vraiment, on remercie M6 pour cela. On est également avec BFM TV, RMC Découverte. Oui. Vraiment, on est très heureux de ce partenariat avec ces autres médias.
Oui, parce que M6, ils montent les grandes courses, mais RMC aussi montre le
quintet.
Carrément, le quintet.
Tous les jours.
Tous les jours, le quintet. Ouais, M6, c'est les grandes courses. Et désormais, on est avec Stéphane Tortora sur Sport 6. Et ça, c'est une chance inouïe. Moi, je regardais Sport 6 quand j'avais 8 ans. C'est vieux, il est toujours là. Ouais. Il fait du très bon boulot. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et compétent.
Stéphane est toujours là.
Il est toujours là, on lui envoie nos éléments tous les week-ends. Ouais. Et donc, c'est une grande chance pour nous d'exposer les courses parce que Sport 6, c'est pas loin de 2,5 millions de téléspectateurs le week-end. Et donc, nous, c'est une super opportunité pour nous, les courses hippiques.
Voilà, le but, c'est de donner de la visibilité aux courses parce que c'est ce qui manque actuellement. C'est un très beau spectacle. Et quand on emmène des gens aux courses qui sont novices, souvent ils ressortent en étant ravis. La difficulté, c'est de faire connaître cet univers et de faire s'intéresser les gens à cet univers quand à côté tu as des choses aussi fortes que le foot et tout ça qui prennent beaucoup de place. Donc le but, c'est de donner de la visibilité, et évidemment qu'une chaîne comme M6 qui est nationale nous permet ça.
Oui, alors on parlera tout à l'heure des hippodromes, mais c'est vrai qu'on fait tout maintenant aussi pour faire venir en famille, et ça c'est important, hein. On l'a vu dans certains hippodromes, Anthony, qu'on connaît.
Ouais.
Hein.
Oui, bien sûr, il y a régulièrement des opérations les dimanches en famille en région parisienne. Il y a des hippodromes en plein Paris, hein, je le rappelle, puisqu'on est sur Mon Paris FM. Pour les Parisiens qui ne connaissent pas ça, Juliette et... j'ai oublié ton prénom.
Antoine,
pardon. Et Antoine, je vous invite à aller pas très loin d'ici. Il y a Auteuil qui est en plein Paris. Ça se fait très facilement en métro.
Longchamp, Vincennes, c'est
Longchamp,
pas loin.
Longchamp, voilà, à côté du Parc des Princes, loin. Il y a Vincennes qui n'est pas très loin non plus. Donc, il y a des hippodromes en plein Paris. Et puis, évidemment que c'est agréable de s'y promener, que ce soit en famille ou pas d'ailleurs, ou entre amis. On peut passer un très bon moment entre copains. Voilà, on y va, on voit un beau spectacle parce que c'est beau, une course de chevaux, c'est beau, et on peut jouer, s'amuser, c'est amusant. Tu vas parier, chacun va essayer de trouver le gagnant. Enfin, il y a vraiment un univers sympa à découvrir, et j'invite tous les Parisiens et autres à essayer de le découvrir. Et vraiment, il y a la possibilité parce qu'il y a un très fort ancrage de ce milieu-là dans toute la France. Il y a près de 250 hippodromes en France.
Ouais, ouais.
Donc, partout que vous soyez en France, il y a forcément un hippodrome qui n'est pas très loin de chez vous.
Certains ont du mal à vivre quand même, les hippodromes.
Disons que le système permet de faire en sorte qu'ils puissent vivre parce qu'il y a beaucoup de bénévolat.
Ouais.
Donc il y a énormément de bénévolat. Mais là où est la difficulté, et vous le savez certainement, c'est que c'est de plus en plus difficile. Alors, j'ai l'impression, et je crois que beaucoup le disent, et je pense que c'est le cas, d'avoir des bénévoles, justement, des gens qui sont prêts à donner de leur temps pour un truc où ils ne sont pas payés. C'est quand même de plus en plus rare. C'est beaucoup de personnes assez âgées, etc. Donc le renouvellement n'est pas facile à faire. Mais il y a cette grande force-là en France, c'est que ça repose beaucoup sur le bénévolat et ça permet de faire vivre ces petits hippodromes.
Oui, puis c'est aussi une filière qui fait vivre énormément de monde. Les corps de métier sont très diversifiés.
Oui.
Dans
Exactement.
Les courses.
En fait, ce qu'il faut rappeler, je pense que c'est important, c'est que le système est vertueux dans le sens où, en fait, l'argent des paris finance la filière. Comme tu le montres, Philippe, ça ne se voit pas forcément à la radio, mais c'est un cercle.
En fait,
l'argent que toi, tu vas jouer, il y a une partie qui va être prélevée pour alimenter les gains de course qui vont permettre aux entraîneurs qui gagnent ces courses ou qui font l'arrivée dans ces courses de pouvoir vivre de leur métier. Donc en fait, l'argent est recyclé et c'est vraiment un système très vertueux. Et en effet, donc, le système des paris en France, c'est du mutuel, permet de faire vivre toute une filière. Et il y a beaucoup de monde dans cette filière parce qu'il y a bien sûr les entraîneurs, il y a les jockeys, il y a les lads, il y a les vétérinaires, les maréchaux ferrants.
Les fabricants de sel, enfin bref.
Il y a toute une filière de... Mais c'est vrai que, évidemment, on est dans un milieu de compétition. Donc, il y a des gens qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Et évidemment que ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui galèrent, mais qui essayent tant bien que mal de vivre de leur passion. Puis, tu as des gens qui vivent très bien parce qu'ils sont très forts et que, voilà, c'est
bien
la compétition qui veut ça.
Comme dans tous les autres sports, en fait. Ça reste du sport de haut niveau. Les meilleurs s'en sortent.
De plus en plus d'ostéopathes. Dans la filière épique.
Il y a énormément d'ostéopathes. Les chevaux sont traités comme des athlètes, c'est-à-dire qu'ils sont suivis, ils vont en balnéo, ils font de l'ostéopathie. Voilà, il y a tout, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. En fait, un cheval, pour qu'il puisse donner sa pleine mesure, il faut qu'il soit bien dans son corps et dans sa tête, comme tout athlète en fait. Et ils sont vraiment traités comme tels.
Alors pour la chaîne Ikedia, c'est une chaîne qui est née en 99. C'est ça,
oui, c'était anciennement France Course.
Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est une chaîne qu'on peut trouver partout, sur le câble, sur le satellite, sur la DSL.
Exactement.
Qui est gratuite.
Et puis la téléphonie, oui, est gratuite, ça faut le dire. Aujourd'hui, que spécialiser dans les courses hippiques? Parce qu'à un moment, ça a dérivé sur les sports équestres, je me souviens, les Jeux mondiaux.
Exactement. Equidia Life, Non, désormais, c'est vrai que vraiment Equidia a recentré sur les courses hippiques, donc les courses de trot, les courses galop et d'obstacles. Après, il y a pas mal de choses aussi qui sont... On est beaucoup sur les courses en elles-mêmes parce qu'il y a une trentaine de courses par jour.
C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on y voit? Des directs de courses, des sujets magazines,
des
émissions de plateau,
des reportages,
des paris.
Beaucoup de courses, beaucoup de directs. Je pense qu'on est le média direct France et étranger.
Oui.
On est le média qui proposons le plus de directs par jour. Il y a une trentaine de courses par jour. C'est assez monstrueux. Également, on propose des reportages chaque semaine. On a entre 5 et 8 reportages par semaine autour des acteurs des courses. Et puis on a la chance maintenant, et tous les médias ont ça, d'avoir un pôle digital qui est très fort. Le site internet où il y a plus de 3 millions de personnes qui consultent les articles par mois, plus d'un million de visiteurs uniques. Et puis on a les réseaux sociaux qui cartonnent. Récemment, je vous invite, notamment les jeunes, peut-être qui sont moins dans les courses. On a le champion du monde, Antoine Griezmann, qui est fan de chevaux, qui est propriétaire.
On va parler de tous ces sportifs qui investissent. Après dans
il y a beaucoup de passerelles entre le foot et les courses.
Ouais,
énormément.
Mais on a vu aussi que Tony Parker, la ville, oui, mais on va en parler.
Mais simplement pour terminer, j'invite les jeunes qui nous écoutent.
Mais ils vont venir avec leur école de journalisme, ils vont aller faire des sujets.
Ouais, mais ça serait bien. C'est un bon sujet. Il y a une très belle interview qui a été réalisée d'Antoine Griezmann sur notre Instagram, et qui a fait plus d'un million d'eux de vues, réalisé par Elliot Fricot, qui est la figure du digital chez nous à Equidia. Et vraiment, nous, c'est énorme pour nous d'avoir Antoine Griezmann, d'avoir Tony Parker, d'avoir Nicolas Batum, d'avoir Charles Leclerc, d'avoir tous ces grands professionnels du sport qui investissent dans les courses.
Santa Maria au foot. On a bien connu Fernandez, Charbonnier,
il y en a toujours eu.
Et Allegri aussi, l'entraîneur de la
Juve. Et même, je dirais, moi qui étais passionné de course, mais aussi de foot, parce que j'ai toujours fait du foot dans ma jeunesse, même sans parler des stars, il y a toujours eu énormément de passionnés. Moi, je sais que à chaque fois que j'allais quelque part jouer au foot, il y a toujours des gens qui parlaient de course. C'est vraiment deux mondes qui sont très entremêlés.
Oui, alors Guy, on est le symbole. Hein. Mais bon, il y a d'autres journalistes qu'on connaît bien, Guy. Hein. Bon, il y a eu notamment Daniel Leclerc. Et puis Thierry Roland.
Thierry Roland,
que tu as bien connu.
Il y avait des chevaux qui étaient
propriétaires. Il y avait des chevaux.
Thierry, il était...
Moi, j'ai toujours eu, comme j'expliquais à Philippe déjà, j'ai toujours eu deux casquettes.
Oui.
C'est-à-dire... J'ai commencé par le sport. J'ai eu une période où j'ai traîné mes gâtres sur les champs de course grâce à un journaliste que vous avez peut-être connu qui s'appelle André Théron, qui a été un de mes maîtres et qui m'a un peu mis le... J'allais dire le pied à l'étrier, mais c'est tellement galvaudé. Il m'a donné le virus, quoi. Ouais. Et je n'ai jamais arrêté de m'intéresser aux courses. Jamais.
T'es plutôt, trop galop,
Même quand je suis retourné sur ma partie d'origine qui était le sport, je n'ai jamais arrêté. J'ai actuellement, j'ai montré ça à Anthony tout à l'heure, j'ai une rubrique dans Facebook qui s'appelle Les Galopeurs, où j'écris tous les jours pratiquement.
Génial, d'accord. Ouais. Donc c'est plutôt, une passion... plutôt galopeur, toi.
Plutôt galopeur.
C'est d'accord. Une passion qui est très forte. Et alors,
J'ai écrit sur... Mais alors, toutes les grandes courses, hein. C'est pas le tiercé et tout. Bon.
D'accord.
Je n'écris que sur les grandes courses classiques.
Ok. Voilà.
Et je disais, c'est une passion qui est très forte. Et quand on est pris, on le sent quand on côtoie les gens de ce milieu, c'est vraiment des gens qui sont... Oui. Très passionné, quoi. C'est vraiment le mot. On peut comprendre certains. Enfin, je pense qu'on accroche ou on n'accroche pas. Je peux comprendre que des gens n'accrochent pas, mais quand on accroche, c'est vraiment très fort. C'est
absolument.
Très prenant.
Moi, quand j'étais jeune journaliste et que j'étais un petit peu dans le milieu des courses, un jour, Théron me dit il faudrait que tu ailles faire une interview d'André Adel. André Adel.
Un maître.
Ouais. André Adel, c'est une sommité. Quoi. C'est une sommité. Et. On va à Maison Lafitte, j'ai passé une matinée entière avec ce mec, on sillonnait les pistes, on voyait sauter les chevaux, et il me parlait. Quand je rentrais chez moi, j'ai dit, c'est pas possible, ce type-là, il m'a piqué. C'est parti, c'est fini, je peux plus quitter les chevaux.
Parce que c'est passionnant, il faut le dire, je disais, c'est très prenant, parce qu'il y a tellement de paramètres, quand vous aimez le sport, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, et puis on est avec un animal, donc déjà, il y a cette notion de faire donner à un animal le maximum de son potentiel, et il y a tous les paramètres, comment tu l'entraînes, mentalement, physiquement.
C'est pour ça que j'avais écrit un papier en disant que les entraîneurs d'obstacles, c'était des sorciers, en vérité.
Ouais, c'est impressionnant, c'est du dressage.
Ce qui s'est passé dimanche à Pau...
Je te coupe juste, mais il y a un très beau reportage qui a été fait autour de Nicole.
François Nicole.
Sur le YouTube d'Equidia, si ça vous intéresse. Je te conseille, si tu veux aller voir, c'est magnifique. On voit sa méthode, c'est extraordinaire.
Mais il y a des gens passionnants dans ce milieu. François Nicole en fait partie, Guillaume Macaire, puisqu'on parle de l'obstacle. Il y a des gens vraiment qui peuvent vous apprendre des choses et que vous pouvez écouter pendant des heures.
C'est incroyable.
Ouais, parce qu'il faut dire quand même qu'on n'en vit pas tous forcément bien dans ce milieu.
Non, c'est ce que je disais, ouais. Mais ah, c'est oui, normal, donc, c'est de la compétition. Hein, c'est le premier qui gagne le plus d'argent. Donc les meilleurs, bah, forcément, comme dans tous les sports, gagnent plus que ceux qui sont.
Jean-Michel Bazir ou Christophe Soumillon gagnent leur vie.
Trois courses par jour. Donc,
oui, non, mais ils gagnent bien leur vie parce que c'est des champions. C'est tous les champions.
Voilà, ce sont les numéro un de leur milieu.
Francky Dettori, le crack jockey italien, il n'a pas de problème d'argent. Il gagne très très bien sa vie. C'est des milieux où, pour les champions, comme tous les grands sports, il y a.
Ouais, comme dans tous les grands sports, le top gagne très bien sa vie. Il y a certains sports où c'est pas vraiment.
Il y a un fossé entre les galopeurs et les trotteurs, enfin entre les drivers et les jockeys. Est-ce que c'est deux milieux qui se parlent quand même?
Oui, il y a beaucoup de passerelles, surtout trop obstacles. Là, il y a énormément de passerelles.
Jean-Michel Bazir avec Arnaud Chaillet,
ils ont des chevaux ensemble. Et vraiment, il y a énormément de passerelles. Il y en a moins avec le plat, c'est vrai.
C'est
un milieu. Après, ça s'explique facilement et je pense qu'il y a des restes de l'histoire. Les courses de trot, en fait, à la base, c'est les chevaux de trot, ce sont des chevaux de travail. Voilà, c'est une race qui a été créée pour aller travailler. Donc, c'est la terre, il y a ce côté-là. Les courses de galop, de pur sang, c'est des courses de seniors. C'est des seniors qui faisaient des duels entre eux et c'est celui qui allait le plus vite qui gagnait. Et mine de rien, l'histoire, bien sûr, ça s'est dilué avec le temps, mais il y a toujours cette notion. C'est vrai que les gens du trot sont un peu plus terriens, un peu plus. Un côté un peu plus agriculteur que le monde du galop, qui est un peu plus noble, qui est un peu plus aristocratique, on peut le dire comme ça.
Et les carrières sont plus longues aussi pour un driver.
Un jockey,
fatalement.
Un jockey, il est sur le cheval. La différence, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas les courses, le driver, il est sur un sulky. Donc, il est derrière le cheval avec un sulky. Donc, l'effort physique, il est moins intense. Et forcément, que c'est plus difficile pour un jockey sur un pur sang de 500 kilos quand vous avez plus de 50 ans. Ça commence à être compliqué.
Voilà, on pense à Gérald Mossé qui est toujours, toujours en scène.
Francky Dettori a 50 ans, il est toujours à cheval et c'est toujours un crack.
C'est sa dernière saison. Mais
il arrête cette année.
Mais comme il y a des footballeurs qui sont encore très bons à 38-39 ans, mais c'est pas la majorité.
Et puis pour le grand public, les chevaux sont les mêmes entre le trot et les.
Non, ce sont deux races différentes. En plat, ce sont des purs sang. Alors il y a différentes races encore de pur sang, mais je vais vous épargner, je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Et au trot, ce sont des trotteurs et ce sont pas du tout les mêmes chevaux. Les trotteurs sont plus robustes parce que je vous le disais, à la base ils sont créés pour le travail, donc ils sont plus robustes. Ça s'est bien sûr complètement affiné avec le temps et on va plus en plus vers des chevaux rapides. Le sang américain a apporté beaucoup de vitesse, donc les croisements font qu'on va vers la vitesse. Mais quand même, les trotteurs sont plus lourds, plus robustes que les purs sang, qui eux sont plus proches du sang, comme leur nom l'indique, qui sont plus nerveux, plus tendus, qui sont plus difficiles à manier.
Ils ont des jambes de verre par rapport aux trotteurs.
Ils sont moins robustes. Ils sont moins robustes.
Ils ont des attaches beaucoup plus robustes. Quoi.
Exactement.
D'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes carrières. Faut quand même
préciser à notre public. Les durées de carrière ne sont pas les mêmes.
Les durées de carrière sur le galop, c'est 2 ans. Un trotteur, il peut durer 10 ans.
Il y a des galopeurs qui peuvent faire 10 ans, mais c'est beaucoup plus rare. Et les très bons, les champions au galop, parfois, ne font qu'une année de course. Après, c'est aussi pour d'autres raisons, c'est parce que financièrement, il y a tellement d'intérêt dans leur deuxième partie de vie qui est d'être étalon. Il y a tellement d'intérêt financier qu'on préfère les arrêter. Ils finissent souvent, par exemple, ils gagnent l'Arc de Triomphe et derrière, c'est terminé, c'est le haras parce qu'une saillie peut coûter 150 000 euros. Et ils peuvent en faire quelques-unes.
Après, il y a une chose à préciser. On parle des galopeurs et des trotteurs, mais attention, les trotteurs, c'est vraiment impressionnant. Les trotteurs, notamment au sulky, ça va à une vitesse incroyable. La différence avec le galop, c'est pas si...
C'est vrai, sur une pointe de vitesse, ils peuvent aller très vite. Mais parce qu'on a affiné la race, en fait, étant donné que ce ne sont plus des chevaux destinés au travail, mais destinés à la course, forcément, les éleveurs, ils font tout pour que leurs chevaux deviennent des chevaux rapides et plus des chevaux massifs pour travailler les champs. Donc forcément, avec le temps, les générations faisant, les étalons étant sélectionnés, les poulinières, donc les mères étant sélectionnées, on arrive à des chevaux qui sont très, très rapides et très compétitifs.
Et s'il y a des agents, comme pour le foot, pour les jockeys ou les drivers.
Il y a des agents depuis quelques années. Alors ça, c'est assez récent. Je sais pas. Je vais essayer de pas dire de bêtises, mais une dizaine d'années, une dizaine d'années. Ça fait un peu plus longtemps au galop qu'au trot, parce que moi, je me souviens très bien avoir eu des discussions avec certaines personnes en se disant, mais comment font ces gars sans agents? Et maintenant, ça existe et c'est répandu. C'est-à-dire que les agents, leur boulot, c'est de regarder quels sont les chevaux qui vont être engagés dans les courses, d'appeler l'entraîneur en leur disant est-ce que mon driver t'intéresse? Parce que le but, c'est de rechercher le meilleur cheval pour leur driver.
Bien sûr.
Juliette, tu as une question, toi? sur les courses.
Est-ce que tu connais les courses déjà, Juliette? Est-ce que ça te parle ou
alors,
du tout?
J'ai fait de l'équitation pendant près de 8 ans. Ouais. J'ai fait beaucoup de concours de saut, j'ai fait les championnats de France,
c'est
à
pas
la
le
mode,
même
etc.
Sport, hein.
Et c'est vrai que j'ai jamais réussi à accrocher aux courses hippiques. Ouais. C'est un milieu où j'ai toujours eu du mal parce que dans mon club, on a récupéré pas mal d'anciens réformés de course. Ouais. Et c'était tellement des chevaux qui étaient stressés, qui étaient tellement peureux que ce milieu, j'avoue que j'ai un peu du mal à m'y accrocher. Mais c'est...
Après, il y a un point dont on n'a pas parlé qui est très important. Et moi, j'ai découvert ça. C'est que les courses hippiques restent un des rares sports où les femmes peuvent affronter les hommes.
Oui, bien sûr.
Sur, enfin, au même niveau.
Oui, bah dans les autres compétitions aussi, ceux d'obstacles, c'est ceux de dressage.
Oui, voilà, mais
c'est...
voilà,
mais
c'est, ouais, ça,
mais tu
c'est...
cours en même temps.
Non, mais ça, faut quand même.
Tu fais la même course là.
Tu vois, c'est pas la même course. Il y a des femmes qui sont remarquables, qui arrivent à battre les hommes, ce qui se fait pas beaucoup dans les autres sports. Il y a une vraie mixité. Je pense, il y a Camille Lévesque,
Nathalie Henry
sur le galop.
Marie Velon,
qui est extraordinaire, qui a gagné ses premiers groupes.
Marie Velon,
ça, je trouve que c'est extraordinaire et on en parle pas assez d'avoir cette chance d'avoir des femmes qui peuvent affronter d'égal à égal des hommes. Et
mais
ça,
c'est pour
y a
ça que j'aime beaucoup
l'équitation,
parce que c'est un des seuls sports qui est mixte où les hommes et les femmes s'affrontent.
Ouais, et par rapport à ce que tu disais, Juliette, il y a énormément de chevaux, des trotteurs notamment dans les écuries, dans les clubs hippiques, il y a énormément de trotteurs. Alors, en effet, peut-être que toi, tu es tombé sur des chevaux un peu tendus, etc. Peut-être qu'ils venaient de sortir aussi de l'entraînement où c'est sûr qu'on leur demande d'aller vite. Donc, ce n'est pas le même exercice. Et forcément, qu'on peut avoir des chevaux qui mettent un peu de temps à prendre le rythme du club hippique où on leur demande d'être beaucoup plus cool. Mais il y a énormément de chevaux parce que ça, c'est un sujet important dans la filière. Et ça tient très à cœur aux professionnels. C'est qu'est-ce qu'on fait du cheval une fois que sa carrière est finie ou une fois qu'on se rend compte qu'il n'est pas assez rapide? Souvent, ils finissent dans des clubs hippiques justement pour faire des chevaux pour le saut d'obstacles, pour les plus doués ou pour les balades pour les autres. Ça, c'est un élément important aussi pour la filière.
Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de belles reconversions et c'est le mouvement qui s'appelle Race and Care qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux qui explique un petit peu comment les chevaux sont chouchoutés, comment se passe leur reconversion. Et c'est hyper important vraiment pour la filière de mettre en avant ces reconversions et surtout de prendre soin des anciens champions. Ça, c'est vraiment essentiel.
Et puis, on parlait des femmes, Jean-Baptiste. Nous, avec Guy, on a connu Dari Boudboul qui avait gagné.
Ah, Dari Boudboul.
Ah, c'est la première femme à avoir été connue.
Justement, tout à l'heure, on parlait des femmes dans le sport hippique. Oui. Comment se fait-il qu'il y a moins de drivers femmes que de femmes qui montent, justement? Dans l'entremontée, il y a des femmes.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas beaucoup de femmes drivers.
Oui, c'est vrai. Comment ça s'explique? C'est une bonne question. Il y a la notion de poids quand même l'entremontée qui
aussi,
fait que les femmes ont... Disons que c'est plus facile pour elles de rester légères que les hommes, un peu plus. Et après, c'est vrai qu'au Stulti, il y en a quelques-unes, mais en proportion, elles sont moins nombreuses même que dans les écuries de galop. Il y en a énormément. Et d'ailleurs, maintenant, dans les écuries de galop, les apprentis sont peut-être à 70% des femmes.
Ouais, tout à fait.
C'est assez impressionnant.
Et c'est vrai que ça tient au poids. Hein. C'est sûr que
le poids joue forcément. Oui. Et après, pourquoi il n'y en a pas plus qui s'imposent au Stulti? Je ne sais pas. C'est une question de compétence. Quand une femme est douée, elle s'impose. Il n'y a pas de souci.
Et puis, il faut juste souligner, d'ailleurs, on pense à Nathalie de Souter qui a pris sa retraite récemment, à 41 ans, avec une carrière remarquable à l'obstacle, une très grande championne.
Près de 700 victoires.
Exactement, et ça, franchement, c'est ce genre de personnes, nous aussi, qu'on veut mettre en avant sur Equidia.
Bien sûr.
Ces femmes remarquables. Je trouve qu'il y a un vrai potentiel média pour parler de ces femmes, parce que c'est des femmes formidables, c'est pas évident. Elles arrivent dans des milieux qui sont assez masculins, et elles arrivent à s'imposer. Je pense quand on voit une jeune femme comme Marie Velon, qui a 23 ans, qui a un petit bout de femme et qui arrive vraiment à s'imposer dans des courses de groupe. Elle a gagné un groupe 1 récemment. C'est une championne. Elle est hyper respectée et je trouve qu'on parle beaucoup du sport féminin, mais justement, elles ont la chance de montrer qu'elles sont à la hauteur et de montrer qu'elles peuvent rivaliser, voire battre les hommes. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le signaler dans les courses, vraiment.
Mais c'est vrai que je me suis toujours posé la question, parce que pour avoir fait du concours, je pense qu'en concours, en tout cas de ce que je faisais, c'était 90% de femmes et 10% d'hommes. Et pourtant, à l'arrivée, que ce soit dans les courses ou dans le sport épique, saut, CCE, n'importe quoi, il y a une majorité d'hommes. Et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait autant d'hommes au haut niveau, alors qu'au niveau normal, c'est pratiquement 90% de femmes.
Parce que je pense que tu as beaucoup de femmes qui, à l'époque, encore même quand tu pratiquais, je pense qu'il était beaucoup plutôt sur une... pas sur une carrière sportive, mais plutôt de faire leur vie de femme, ce que tu avais moins chez les hommes. Aujourd'hui, je pense que les mentalités ont évolué et que les femmes ont envie aussi d'avoir leur vie de championne. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des jeunes talents qui sont en train d'émerger, notamment au galop. Il y a vraiment des jeunes femmes qui arrivent avec énormément de potentiel, avec énormément de talent. Ouais. Et je pense aussi que dans la société, le fait d'avoir vraiment évolué la place de la femme, la confiance qu'a gagné la femme dans la société, permet d'avoir des championnes qui sont en train d'arriver au plus haut niveau. Et sincèrement, je pense qu'on aura de plus en plus de femmes championnes dans les courses qui vont s'imposer et qui vont gagner les grandes courses. Il y a une jeune femme qui est formidable en Angleterre qui s'appelle Holly Doyle qui
a gagné le prix de Diane.
Qui est une des plus grandes courses.
Rachel Blackmore,
voilà, exactement.
Première femme à remporter le Grand National, la Gold Cup.
Exactement.
Et on va la voir à Cheltenham.
Et le Champion Hurdle, c'est-à-dire les trois grandes courses d'obstacles anglaises. Elle les a gagnées. Ouais.
Donc maintenant, on attend une femme qui s'impose sur le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ça serait formidable. Mais c'est quelque chose qui va arriver dans les années prochaines. Et ça, je crois que c'est vraiment une chance dans les courses de pouvoir compter sur ces femmes qui sont des grandes championnes.
Et Marie Velon, dans le Prix Royal Oak, elle fait une course tactique exceptionnelle.
Bien sûr. Oui, parce qu'en fait...
Parce que ce n'est pas évident.
Parce qu'il n'y a pas que la force qui compte, et c'est pour aussi que les femmes ont tout à fait leur chance cet univers-là, parce qu'il faut manier le cheval, il y a l'aspect tactique, et puis il y a l'aspect l'entente avec son animal, cheval. Et bien sûr, il y a une notion de force pour finir son cheval, pour pousser, mais Marie Velon et d'autres prouvent qu'elles peuvent à fait rivaliser avec les champions masculins.
D'ailleurs, pour les jeunes femmes qui nous écoutent, et notamment Juliette, je t'invite vraiment à aller voir, on a eu la chance, on avait donc Tony Parker qui était avec nous sur Equidia, on a fait trois masterclass avec lui, dont une masterclass avec Marie Velon qui revient sur sa passion, sur la place des femmes dans les courses, sur ses objectifs sportifs. Et je t'invite vraiment à le regarder, c'est sur YouTube d'Equidia. Et c'est passionnant ce qu'elle raconte. Et on voit que cette jeune femme, c'est une championne. Et je pense qu'elle va faire de très grandes choses à l'avenir dans les courses.
Non, mais ils vont venir avec leur école du journalisme.
Les cravages
d'enfants. Ils vont venir faire des sujets. Je n'ai pas demandé, vous êtes combien à travailler sur Equidia au total?
On est beaucoup.
Alors là, c'est une bonne question,
Philippe. On est une centaine.
Oui.
Et au niveau journaliste, on est une 40. 45, ah ouais, 50 ouais, ouais. au moins, bah oui, parce à peu
que près. J'imagine plus, faire des plateaux, 60 aller sur les courses.
Chaque jour, on est sur, on va dire, 4 hippodromes différents. On a une équipe sur 4 hippodromes différents. Oui. C'est pas rien quand même. Chaque jour, pour des directs,
on
peut avoir une équipe à Bordeaux, une équipe à Paris, une équipe à Marseille et une autre à Strasbourg. Donc c'est quand même une logistique impressionnante. Et c'est ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure. On est la chaîne qui propose le plus de directs, en fait, sportif par jour et tout ça sans accro, donc c'est quand même une perf en soi.
Très peu d'accro. Très peu.
J'ai dit aucun, moi.
Et puis on a la chance aussi de mettre en avant des courses internationales, donc on envoie des journalistes aussi à l'étranger. Là, on en a un qui est en Arabie Saoudite. Une est partie, enfin, ils partent aux États-Unis, au Japon.
Et vous avez des correspondants aussi.
Exactement.
Il y en a un qu'on connaît, notre ami Stéphane Monk.
Exactement. Qui est lui basé dans le nord-ouest de la France, où il y a beaucoup, beaucoup d'hippodromes, beaucoup de courses.
Allez, la deuxième pause musicale avec, justement, on parlait des femmes, Patrick Juvet, où sont les femmes. Et ensuite, on va revenir également sur ce sport que sont les courses épiques.
Porte un blouson noir.
fait.
Voilà, puis cette émission, naturellement, vous pourrez la retrouver très rapidement en podcast et puis sur tous les différents réseaux sociaux. Alors, nous, on le sait, mais pour le grand public, il faut quand même rappeler qu'il y a deux grands rendez-vous hein, qui sortent de l'ordinaire. C'est le prix d'Amérique pour les drivers, hein, pour les trotteurs, et puis le prix Qatar Arc de Triomphe pour les jockeys, hein, faut le dire.
Exactement. Voilà. Donc, en plat, à Longchamp, ouais. Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est pas dur à retenir, c'est... Ouais.
Premier dimanche d'octobre.
Voilà, bravo Philippe. Premier dimanche d'octobre. Et le prix d'Amérique, c'est le dernier dimanche de janvier. C'est au trot, c'est à Vincennes. Et voilà. Ce sont vraiment deux rendez-vous magnifiques parce qu'il y a beaucoup de monde sur l'hippodrome, ce qui peut manquer un peu parfois. Là, les hippodromes sont pleins, il y a de l'ambiance, il y a toute une fête autour des courses et c'est extraordinaire. Quoi.
Et le grand cible de Paris, fin mai. Au mois de mai.
Exactement, mais c'est bientôt, hein, on va y arriver vite. Fin mai. Après, il y a le prix de Diane qui est très sympa, avec beaucoup d'animation au mois de juin, le Jockey Club. Voilà, il y a des événements comme ça, mais c'est vrai que les deux principaux, il ne faut pas se mentir, ce sont les deux qu'on a cités, l'Arc de Triomphe et le Prix d'Amérique.
Il y a quasi 40 à 50 000 personnes qui sont présentes sur les hippodromes à cette occasion. C'est magnifique.
Toutes les grandes stars du sport, même
du cinéma. Récemment, sur le Prix d'Amérique Legend Race, on a eu toute l'équipe du film Tempête qui est venu, Pio Marmaille, c'était hyper sympa, vraiment, ça attire vraiment du beau monde.
Alors, on parlait de tous ces investissements, de tous ces grands champions sportifs vis-à-vis des shows, ils retrouvent cette adrénaline qui leur manque.
Il y a plusieurs choses. Il y a les connexions, je le disais tout à l'heure, entre le sport et les courses, parce que ils comprennent le langage quand ils parlent avec un entraîneur de chevaux, ils comprennent, il y a du fractionné, c'est ce que nous disait Antoine Griezmann d'ailleurs, il nous disait, voilà... c'est le même langage en fait, et d'ailleurs ils échangent parfois avec son entraîneur Michael Cormi, donc il y a cette passerelle là et puis je pense que c'est un univers qui leur plaît, c'est amusant, c'est festif, et puis ça les déconnecte un peu. C'est ce que nous a dit Antoine Griezmann quand on est allé à Madrid. Il nous a dit c'est loin de mon univers quotidien qui est le foot, et c'est très bien quoi, ça m'évade en fait. Et puis quand il rentre chez lui à Mâcon, il est content, il va voir ses chevaux avec ses enfants, voilà, t'es dans un cadre apaisant, sympa, t'es loin de ton quotidien quoi.
Il y a beaucoup de jeunes dans ce milieu.
Montres Elliot Fricot, c'est vrai qu'il
Elliot m'a dit il y a beaucoup de jeunes.
Notre vedette sur le digital, Elliot. Mais il y a beaucoup de jeunes.
Oui, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Exactement,
hein,
c'est pas un milieu. On pense que c'est un sport de vieux, mais c'est pas le cas. On n'est pas si vieux que ça, nous, avec Jean-Baptiste. Il y a pas mal de jeunes qui accrochent aussi à cet univers. Et puis, dans ceux qui travaillent au quotidien, il y a beaucoup de jeunes également. C'est un univers qui plaît aussi bien aux jeunes qu'aux plus anciens. Mais c'est vrai que le PMU a cette image un peu rattachée, qui est fausse d'ailleurs, parce que franchement, nous, on y est tous les jours et on voit plein de gens divers et variés. Il y a tous les profils, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a un peu tous les profils. Donc c'est un peu une fausse image qui est dure, c'est vrai, dont les courses ont du mal un peu à se dépêtrer. C'est vrai.
Et quand on vient aux courses, on vient pour le jeu ou on vient pour le sport?
Bonne question.
Les deux.
Bonne question, débat qui fait rage depuis des années. Pour moi, il n'y a pas à avoir de débat en fait. Déjà, tu fais en fonction de toi ce que tu es, de ce que tu ressens. Si tu aimes le jeu, tu as le droit d'aller jouer et ça te plaît. Et si tu viens juste pour le spectacle, très bien aussi. Mais clairement, je le disais d'ailleurs tout à l'heure quand tu m'as demandé, Philippe, comment j'étais venu aux courses. Ouais. C'est indissociable. Le pari est indissociable des courses de chevaux. Ça fait partie de l'ensemble. Et évidemment que sans pari, il n'y aurait pas de course, puisqu'on le disait tout à l'heure, c'est un cercle vertueux et c'est le pari qui alimente la filière. Donc c'est les deux, mon capitaine, je dirais. Exactement. Et c'est tant mieux. Et chacun fait en fonction de ce qu'il aime. Mais je conseille quand même à ceux qui vont aller sur un hippodrome pour la première fois d'essayer de jouer, de regarder les chevaux, de choisir son cheval et de mettre une pièce et de vivre ce truc qui est s'approprier un cheval pendant une course où tu peux vraiment vivre une émotion sympa quoi.
De mettre une petite pièce, parce qu'il faut quand même rappeler le jeu c'est très bien, mais il faut y aller modérément. Ça peut être une drogue en fonction de ses moyens. Il y a un sujet, moi je voulais juste compléter ce que dit Anto. Moi quand je suis arrivé dans les courses hippiques, beaucoup m'ont dit mais c'est que du pari, etc. Et c'est pas vrai, c'est du sport et du pari. Et j'invite ceux qui disent cela à regarder ce qui se passe avec le football, avec le rugby, avec le basket. Je crois qu'aujourd'hui maintenant on est dans une société où le sport et le pari les deux ont leur place et de plus en plus de jeunes notamment suivent les sports ainsi. Maintenant, on le répète, voilà, le jeu, on peut jouer évidemment, ce n'est pas interdit par la loi, mais il faut le faire de façon mesurée et avec des moyens, selon les moyens qu'on a, pardon.
Alors justement, c'est est-ce qu'on joue plus qu'avant ? Parce qu'il y a quand même une crise économique, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a des possibilités de jouer tous les jours. Est-ce que,
Les chiffres du PMU sont très bons. Le PMU est très satisfait des chiffres. On est autour de
on est alors l'an passé, milliards. Puisqu'on a eu le bilan là, d'activité du PMU récemment, 2022, on est à 9,2 milliards d'euros d'enjeux. Alors on parle d'enjeux, et donc une partie de tout ce, c'est ce que je disais tout à l'heure, une partie de cet argent qui est joué est redistribué à la filière. Mais 9,2 milliards d'enjeux pour l'année dernière, et donc c'est en augmentation par rapport à 2021 avec une progression assez nette. Donc pour répondre à ta question, Philippe, oui, on joue toujours autant. Ce qui a tendance à se réduire un peu, c'est le taux de pénétration, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui sont touchés par les courses et qui vont aller jouer aux courses. Il y a moins de gens, mais le volume est toujours constant.
On joue à distance, par Internet, donc on voit on vient moins alors sur l'hippodrome.
Parce que les chiffres sont... Justement, c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, dans les courses, c'est que les gens viennent beaucoup...
Parce qu'on pourrait
jouer au PMU, jouer sur l'hippodrome. Parce qu'il y a vraiment le côté humain, il y a l'échange. Il y a l'échange, sur le.
Mais c'est
le
vrai digital. C'est vrai qu'on pourrait se dire c'est tellement facile de jouer sur Internet de chez soi, que tout le monde joue de chez soi. Et en fait, alors, j'ai les chiffres, c'est 74% des gens qui jouent sur le réseau qu'on appelle off, c'est-à-dire qui n'est pas Internet. 74% des gens vont jouer soit sur l'hippodrome, soit dans les bars PMU. Donc ça reste encore très nettement supérieur au online. Et à ce qu'on peut jouer sur Internet.
Et évidemment, il y a vraiment le côté sport parce que on doit analyser les chevaux, il faut connaître les chevaux, il faut connaître les drivers, les jockeys.
Les bons tuyaux.
Quoi qu'il
faut se méfier.
Non, bien sûr, mais je pense que c'est quand même hyper important d'analyser les éléments, d'analyser les courses. C'est un travail qui est passionnant.
Mais c'est un jeu, alors avec toutes les précautions qu'on doit prendre de plus en plus, je dirais, avec les jeux d'argent. Mais je suis peut-être pas objectif, mais c'est le plus beau jeu d'argent qui existe.
C'est plus ancien,
c'est un jeu intelligent.
Parce qu'il faut que tu trouves le cheval que tu vas jouer. Pourquoi celui-là plus que celui-là ? Parce que le terrain aujourd'hui est comme ça, parce que le jockey s'entend bien avec lui. Il y a une réflexion à avoir. Et après, une fois que tu as eu cette réflexion-là, il y a toute la course qui est un spectacle quand même magnifique.
Exact.
Évidemment, ça ne se passe pas toujours bien, mais quand ça se passe bien, tu as une adrénaline qui est incroyable parce que tu vois ton cheval à qui tu pensais qu'il était le probable gagnant. Quand tu le vois, lui, accélérer, que c'est le tien, c'est celui que tu as choisi. Ouais. Tu as ce côté, j'ai été plus malin que les autres. Il y a ce côté-là qui rentre en compte. Je l'ai trouvé. Voilà. Et comme on joue les uns contre les autres, puisque c'est du mutuel, clairement, on joue les uns contre les autres, tu as en plus ce petit truc de te dire, j'ai été plus fort que les autres aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvé le gagnant. Et donc, franchement, c'est un jeu qui est extraordinaire à prendre avec toutes les pincettes d'usage, mais c'est quand même un jeu extraordinaire.
Bon, Antoine, toi qui as du monde dans le milieu hippique, qu'est-ce que tu en penses ?
Un petit peu. Moi, c'est vrai que j'ai suivi tout ce qui tourne autour des chevaux par le biais de ma sœur. Elle a fait beaucoup de CSO, elle a fait les championnats de France, tout ça. Mais c'est vrai que les courses hippiques, j'y suis allé quelques fois.
Boris, il t'a jamais emmené ?
Boris m'a emmené plusieurs fois, ouais. Mais c'est vrai qu'on prend... pourtant, moi qui ne suis pas un fanatique de course hippique, quand tu as parié sur ton cheval et que tu le suis, j'ai vécu ça dans aucun autre sport.
On est d'accord.
Je parie beaucoup sur le foot, mais
c'est pas pareil.
C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Là, ils sont combien sur une course ?
Ça dépend, ils peuvent être 10, 15.
Pour le quintet, ils doivent être minimum 15.
D'accord, t'en choisis un, puis les cotes n'ont rien à voir. Là, c'est pas.
Ah oui.
J'imagine que ça dépend de qui est le favori, etc. Mais
quand même. En effet, au foot, quand t'as un 4 contre 1, c'est déjà une surprise.
C'est ça.
Aux courses, 4 contre 1, c'est le favori.
PSG 3 en général, la cote, il n'y a pas de surprise, surtout sans bruit.
Et on peut encore partir très riche dans l'hippodrome, on peut encore gagner beaucoup.
Je pense que c'est important de le dire. Effectivement, c'est un jeu, c'est un sport, c'est un jeu. Peu importe la définition qu'on lui donne, mais il y a un moment, c'est comme tous les autres jeux d'argent, et je vois pas mal de publicités, jeux d'argent sur dans les pubs. L'idée, c'est de venir s'amuser, l'idée, c'est de venir gagner de temps en temps, c'est de pas trop en perdre. Mais moi, je ne connais personne qui est devenu riche grâce aux jeux d'argent, sauf au loto et l'euro million, parce que c'est des sommes monstrueuses. Mais sur les paris sportifs, Y a un moment, il y a un copain qui va passer, qui va dire, tiens, j'ai gagné tant. Oui, mais pour gagner tant, tu as perdu combien? Donc voilà, l'idée, c'est évidemment, il y a de l'adrénaline. Moi, je le répète pour les gens qui nous écoutent, c'est de venir s'amuser sur l'hippodrome, c'est de regarder Equidia, c'est pourquoi pas de parier, c'est de regarder ça comme un sport, mais toujours avec mesure et de se dire qu'on ne va pas devenir riche grâce à ça. C'est pour s'amuser, tu peux gagner et payer un coup aux copains, aller au resto. Et c'est ça qu'on veut, en fait, c'est la convivialité. Finalement, c'est ça, moi, je trouve qui est vraiment important dans les courses hippiques, mais pas que, dans les autres sports aussi, c'est pareil. Voilà, ça m'arrive moi aussi de parier sur le foot, le rugby. Bon, bah, l'idée, c'est pas de gagner des folles sommes d'argent, mais c'est de rêver et puis de gagner de temps en temps. Et puis voilà quoi.
Et juste, j'ai une question du coup pour Antoine. Donc, tu es allé quelques fois sur les hippodromes, tu as passé des bons moments visiblement à chaque fois. Et qu'est-ce qui t'a empêché en fait de t'y mettre un peu plus, de te dire tiens, je vais suivre ça un peu plus, je vais y aller de temps en temps, etc.
Honnêtement, là déjà, je saurais pas où aller.
Ouais, voilà. Okay.
Alors, même si tu disais, je crois qu'il y en avait 250 à peu
près. Ouais, il y a 250 hippodromes.
Je sais qu'il y en a.
À peu près en France.
Je crois que Longchamp, en plus, il est pas très loin de chez moi. Mais c'est vrai que c'est pas le sport que j'irais voir. Pourtant, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir les peu de fois où j'y suis allé. Mais je ne saurais pas où aller. Et c'est vrai que j'ai l'impression, ça reste quand même un. Même si je pense que c'est une fausse idée. Un monde un peu
fermé.
Un peu fermé.
Ouais. C'est l'image
pour bien s'y connaître en sport épique, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être comme toi qui est né dans une région de plus dans le domaine de l'équitation. Mais c'est vrai que j'ai accroché, mais de là à en faire un de mes sports favoris et d'y aller, non. Mais c'est vrai que je crois que j'y allais 3-4 fois, je suis allé à un hippodrome. J'ai passé une super après-midi,
ouais,
même avec des très petites sommes. Je mettais.
Mais oui, non, mais c'est ce que disait Jean-Baptiste.
Je te conseille aussi les soirées. Hein. Il y a des très très belles soirées à Vincennes, il y a des très belles soirées à Longchamp.
Longchamp, j'en ai fait. Ouais.
J'ai dit à Longchamp. Ah, voilà, ça on connaît. Là, il y a le connaisseur.
Surtout après.
Oui, bah, évidemment.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Antoine. Ça montre aussi les barrières que doivent lever toute l'institution des courses, en fait. C'est la com, c'est comment on emmène les jeunes aux courses, comment on montre que ce n'est pas un milieu aussi fermé que ça.
Je suis d'accord avec toi. Il y a un gros problème de marketing.
Oui, mais ça bouge quand même.
Oui, ça bouge beaucoup.
Vous le faites. Mais au niveau du PMU, ça commence à venir. Il faudrait qu'à France Gallo, plus qu'au trot, parce que le trot travaille bien. Le trot travaille bien. À France Gallo, il devrait beaucoup plus travailler le marketing.
Bah après, il y a les soirées, comme le disait Jean-Baptiste, à Longchamp qui marchent très fort. Il y a des choses de fait, mais on part de loin et ça prend du temps. Mais c'est vrai que c'est clair qu'on a ces barrières-là, elles sont identifiées. Et c'est ce qui manque un petit peu aux courses, d'avoir cette image un peu plus ouverte. Quoi.
Mais le Grand Prix d'Amérique fait des audiences énormes.
Oui, bah, ouais, complètement.
Donc,
écoute, ça fait cette année, il a fait quasi un million de spectateurs sur M6, une part de marché monstrueuse.
Dans beaucoup de pays, il est retransmis dans énormément
de pays. Oui, ouais, ça marche très bien, c'est énormément suivi. Hein,
J'ai une question pour vous. Est-ce que la France est un pays un peu en retard par rapport au sport hippique
Non.
Moi, je dis oui. Par rapport à l'Angleterre, oui.
Par rapport à certains pays, c'est le berceau.
C'est vrai que l'Angleterre, c'est un peu le berceau.
Mais comme le football.
Mais quand tu vois qu'à Cheltenham, le festival qui va commencer
au mois de mars.
Les 4 jours de festival, 80 000 personnes par jour.
Non, c'est vrai.
Oui, mais alors pour répondre à la question, Antoine, je dirais pas qu'on est en retard parce qu'en effet, il y a quelques pays qui concurrencent la France. Il y a l'Angleterre, notamment au Gallo, ça c'est sûr. Le Japon est développé à ce niveau-là. La Scandinavie pour le trot, mais la France fait partie quand même des leaders en termes de course hippique.
Oui,
son système, notamment, est le plus beau système qui existe, le système du mutuel. Et le fait que l'argent soit recyclé et qu'elle permette d'alimenter la filière, c'est unique.
Les Anglais nous envient pour ça.
Exactement, parce qu'eux, ils sont sur un système de bookmaker qui est complètement différent. Et après, l'autre remarque que tu faisais, Guy, pour moi, elle est différente. C'est pas une question de en retard ou pas en retard, c'est une question de culture. Les Anglais ne voient pas les courses de la même façon que nous les Français. Eux, ils peuvent. Nous, on le voit par exemple sur les réseaux sociaux. Tu mets une vidéo d'une course, ils vont faire 200 000 vues sur une vidéo de course. On est très loin de ces chiffres-là. Il y a une question de culture, ça fait partie de leur vie quotidienne. Ce qui n'est pas le cas en France.
Je suis d'accord avec toi.
Mais ce qu'on essaye de remettre en place avec Equidia, avec nos dirigeants, c'est vraiment de remettre les courses au cœur du quotidien des Français, d'où notre volonté de nous rapprocher d'M6, de nous rapprocher de BFM. On a envie de mettre en place d'autres partenariats parce que c'est passionnant, parce que c'est magnifique comme milieu et qu'on veut l'exposer au maximum.
Et par jour, combien à peu près?
de téléspectateurs.
Oui, à peu près. C'est à peu près normal.
Alors nous, ouais. nous, on n'a pas vraiment.
On a les audiences. Alors par exemple, ce que
on
je
a
peux...
médiamétrie, mais ouais. c'est avec le. C'est important de le dire, c'est avec le son. Donc ça ne prend pas en compte les
points de vente où il y a pas de son.
Les points de vente où il y a pas de son. Mais on est autour de.
Mais pour un quintet, par exemple, en semaine, on est aux alentours de 160 000 téléspectateurs. Le week-end, 350 000.
Ouais, voilà. C'est ce que j'avais lu que ça pouvait monter.
350 environ pour les quintets, qui est le pic d'audience de la journée, parce que c'est le. C'est le truc traditionnel. C'est la course que les gens attendent en général.
Et pour les grandes courses, t'es autour de, t'es pas loin d'un million par grande course. Ça, c'est vraiment très intéressant.
Bon, bah écoutez, on va maintenant écouter le journal Omnisport de Juliette. Donc, il y a le carillon. Et ensuite, Juliette, elle va nous donner les infos sportives hors foot et hors hippie.
On t'écoute, Juliette.
Perrine Lafond, doublement en or, la skieuse a remporté deux titres mondiaux de ski freestyle à Bakouriani ce week-end. D'abord sacrée sur l'épreuve simple, la Française a remporté le parallèle ce dimanche. Avec 5 sacres au total, elle devient à 24 ans la skieuse la plus titrée de l'histoire des mondiaux. Duplantis s'envole pour un nouveau record. Le Suédois Arnaud Duplantis a établi samedi 25 février un nouveau record du monde du saut à la perche en franchissant la barre placée à 6,22 m au meeting All-Star Perche à Clermont-Ferrand. Il améliore d'un centimètre son précédent record. Organisateur de la compétition, précédent recordman, mais aussi idole du Suédois, Renaud Lavillenie a été le premier à le féliciter dès la retombée de son saut. Performance monstrueuse pour Lillard, Portland a dominé Houston 131-114, porté par un très grand Lillard. Certes, les Rockets sont derniers de la conférence Ouest, mais la performance de la star de la franchise de l'Oregon n'en reste pas moins impressionnante. Il a en effet marqué 71 points, 22 sur 38 au shoot, dont 13 sur 22 à 3 points. C'est la meilleure performance de sa carrière et la 8e meilleure marque de l'histoire de la NBA. Troisième journée du tournoi des 6 nations, le 15 de France retrouve la victoire face à une redoutable équipe d'Écosse en reportant le match 32-21. Pour ce qui est des autres résultats, l'Irlande s'impose en Italie 34-20 et l'Angleterre remporte son duel contre les Gallois 20-10. Au classement, l'Irlande reste première avec 15 points, suivie de l'Écosse, l'Angleterre et la France à 10 points. L'Italie prend la 5e place avec un petit point et le Pays de Galles ferme le classement avec toujours 0 points. Et pour finir, c'est enfin le retour de la Formule 1. Ce week-end avaient lieu les premiers essais hivernaux à Bahreïn, une semaine avant le premier Grand Prix de la saison sur ce même circuit. De ce qu'on a pu voir, Red Bull reste la monoplace la plus rapide. Ferrari se positionne bien aussi, mais constate une plus grosse dégradation des pneus. Chez Mercedes, c'est un peu la panique. La monoplace allemande n'est pas encore capable de batailler avec les Ferrari et les Red Bull. Quant à nos Français, ils figurent pour leurs meilleurs résultats dans la seconde partie du classement, avec une 10e place pour Gasly et une 12e place pour Ocon.
Bravo. Très bien. Bravo. Ouais, très bien. Alors, très bien. Juliette, justement.
Juste le prix d'Amérique.
Juste
alors, le Grand Prix de Paris.
Ouais, oui, juste un petit mot sur Duplantis, 6m22. Hein, ça fait,
C'est un record encore une fois incroyable. C'était le dernier record détenu donc, par Lavillenie à 6m16. Il l'avait déjà battu une première
fois. Il l'a plusieurs fois, comme Boudka.
À chaque fois, il l'augmente de quelques centimètres. Ouais. De quelques centimètres. Voilà, là, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il aurait pu mettre 6m30, encore largement...
Il peut faire 6m30.
Oui, largement,
il prend de l'argent à chaque centimètre.
Comme Boudka.
Et
sous les yeux de Renaud Lavillenie, qui est donc propriétaire de chevaux de course, qui a des chevaux d'obstacle. Il saute moins haut que lui, mais...
Et qui organise la soirée All-Star
à Clermont-Ferrand.
Il a un de ses chevaux qui a gagné à Auteuil d'ailleurs, Renaud pas là récemment, mais ça fait quelques mois maintenant, donc il est lui aussi passionné de course.
Oui, et puis un petit mot sur Perrine Lafond.
Perrine Lafond, que dire,
deuxième titre mondial et cinquième au total.
C'est la meilleure française, je pense, en ski. De l'autre côté, en descente, on va avoir Alexis Pinturo. C'est les deux meilleurs actuellement et il n'y a personne qui peut les battre. On parlait la semaine dernière du peu de médailles qu'il y avait en ski français. Ouais. Pareil, de son côté,
c'est bien. Elle avait terminé quatrième au jeu. Elle était un petit peu déçue. C'est la plus mauvaise place au jeu, quatrième. Donc là,
mais il y a beaucoup d'espoir pour les jeux dans 3 ans et on espère qu'elle aura une meilleure médaille d'or cette fois-ci.
Bon, on va parler du rugby.
On a une très belle bataille.
Oui, 32-21, donc victoire. Ça n'a pas été facile, mais enfin, l'équipe de France s'est imposée. Donc, tout reste possible pour une éventuelle victoire dans le tournoi. Mais belle équipe d'Écosse, quand même. Hein.
Oui, très, très beau 15 du Chardon. On a eu un match rythmé par deux cartons rouges dès l'entame. Oui. J'avais rarement vu ça. Mérité, Mohamed Awas a mis un énorme coup de tête.
Deuxième fois.
C'est la deuxième fois. Il revenait tout juste. Donc, le Montpellierin va... il revenait dans le 15 là, il pourra pas être aligné pour la suite. C'est dommage, il fait son retour, on sait que c'est un élément fort du 15. Le carton rouge de l'Écosse les a mis dans une mauvaise posture dès le début. On était à 19-0. Donc
on fait une très bonne entame. Hein,
très bonne entame, oui.
Romain Ntamack. Ils ont dominé la deuxième mi-temps.
Ils sont très rapidement revenus. Romain Ntamack qui nous met dans de très bonnes dispositions au bout de 4 minutes. C'est, il me semble, Ethan Dumortier après qui en met un autre. Excellent match de Gaël Ficou, le capitaine de la défense et le nouveau joueur du Racing qui a fait beaucoup de bien. Il a été élu homme du match. Ça a été un de ses meilleurs matchs. Il a été soldé par un quatrième essai qui permet d'avoir le bonus offensif. Et surtout, ça permet de conclure son très bon match. Et on repart avec 11 points, le bonus. On est à 10 points. Ça va peut-être être compliqué pour aller devancer l'Irlande, qui est monstrueuse physiquement dans les impacts, à la manière du match qu'on a eu à faire là-bas. Ils sont hors normes. J'ai rarement vu une nation autant dominée. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont premiers dans le classement.
Ouais, tu as raison, ils sont
Jean-Baptiste, tu as suivi le match aussi.
Ouais, bien sûr. Ah, oui. Mais c'est vrai que ça a été compliqué contre une excellente équipe d'Écosse. Certainement, oui. Galtier, le sélectionneur français, a dit que c'était la meilleure Écosse de l'histoire. Effectivement, en première période, on a dominé parce que Finn Russell, le numéro 10 écossais, a été totalement à la ramasse. Et en seconde période, il a été monstrueux parce que c'est un génie.
Oui, vraiment, très bon jeu au pied.
C'est ombre et lumière. Il est capable de passer totalement à côté d'un match comme d'être le meilleur numéro 10 au monde. Et c'est ce qui s'est passé en seconde période. On a eu très chaud. C'est Gaël Ficou qui nous sort là de ce match piège. Après, c'est sûr que cette équipe de France est beaucoup moins dominante que l'an passé. La Coupe du Monde ne va pas être simple. Il manque encore des choses. L'Irlande, pour le moment, est devant.
Mais l'Irlande est vraiment dans le tournoi quand même.
Ouais, bien sûr.
L'Écosse a progressé.
Mais le niveau est monstrueux.
Il y a le Pays de Galles qui est moins bien.
Oui, parce que le Pays de Galles, il y a des problèmes aussi extra sportifs. Ouais. Ils ont voulu se mettre en grève. Ils sont en guéguerre contre la fédération. Après, ça reste une équipe solide. Mais c'est vrai que l'Irlande et la France sont actuellement avec l'Afrique du Sud. C'est les trois plus grandes nations mondiales. C'est rare qu'on ait deux nations du Nord dans les trois meilleures. Donc ça va être un tournoi passionnant. Mais je vois pas comment l'Irlande va laisser échapper ce grand chelem. Et après, rendez-vous à la Coupe du Monde, où là, il va y avoir des matchs incroyables. Ça aura lieu en France. Là aussi, ça va être du spectacle. Et j'encourage tous les gens qui nous écoutent à aller voir des matchs de rugby de cette Coupe du Monde.
Et où sont les Blacks alors? Parce que moi qui suis moins expert, ils sont où? Est-ce que c'est l'Irlande, la France, l'Afrique du Sud?
Moins bon.
Ouais, moins bon.
C'est
disons,
plus que
ouais, deuxième ça ou troisième, hein, sur le plan mondial. T'as suivi le match?
Pour l'instant, c'est les Box.
Ouais.
Et les Irlandais, quoi, qui dominent.
Ah bah, on a battu les Sudaf il y a quelques mois. C'était un match
juste avant le mondial
impressionnant. Ouais, quel match d'une violence. Il y a eu 4 ou 5 commotions. C'était monstrueux. Vraiment.
La pression que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde pensait que la France pouvait être championne du monde et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas.
Non, on peut l'être, mais il faut.
On est moins dominant.
En fait, le secret, là, ceux qui sont moins bien, c'est ta charnière Dupont-Ntamack. À un moment, c'était les deux. C'était la charnière la plus forte au monde. Et là, ils sont un peu en dedans. Dupont, je ne suis pas très inquiet. Ntamack, il a été excellent pendant les 30 premières minutes et après, il s'est éteint. Ouais. Il a fait rentrer Jalibert, qui est un joueur un peu comme Finn Russell, qui est capable du meilleur comme du pire.
Sur tous les fins de match, Jalibert.
Exactement. Il y a un joueur dont on parle peu et je pense qu'il manque beaucoup à Dupont, c'est Lucu, le numéro 9 de Bordeaux, qui avait l'habitude de faire les 20-25 dernières minutes, qui fait beaucoup de bien à Dupont. Et là, Dupont, on le sent un peu fatigué, un peu émoussé. Donc il faut que cette charnière retrouve son niveau et on pourra leur être champion.
Il doit prendre le jeu à son compte. Il n'a pas le choix. J'aimerais bien rappeler la belle performance d'Anthony Jelon, qui s'est sacrifié deux fois. Il est sorti sur commotion. C'était déjà dangereux de le faire rentrer. Il s'est sacrifié pour sauver l'essai irlandais, mais voilà, il a très courageux.
L'essai écossais,
qui a,
ouais.
Celui qui était bon aussi, c'est Olivon.
Hein. Oui,
pas comme d'habitude.
De toute façon, ils ont tous été très bons. Hein. C'est pas un sujet. Mais après, l'Écosse, il y a des joueurs monstrueux. Hogg, c'est un monstre. C'est peut-être le meilleur, un des meilleurs arrières au monde. Finn Russell. Enfin voilà, ils ont des vrais joueurs de rugby, hein, les Écossais. Ça joue, ça s'envoie. Hein.
Et puis,
ça faisait longtemps.
Ouais.
Allez, on va finir par le volley. Il n'y avait pas de basket ce week-end, hein, sur le 13e, il y avait du volley. 22e journée, le Paris Volley battu par Chaumont, 3-0, assez net. Oui, si. Et donc, le PC Aubasson aussi battu par Nantes-Trezier, 3-0. Donc, c'est Tours qui est en tête, 53 points. Paris est 9e avec 28 points. Et donc, le PC Aubasson, 13e et avant-dernier, 19 points.
C'est ça, le Paris Volley qu'on aurait pu imaginer confirmer leur victoire contre Toulouse lors du dernier match sur 3-1. Malheureusement, ils ne confirment pas. Ils se retrouvent 9e du classement, en dehors des places qualificatives. C'est une victoire, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs. C'est très, très compliqué pour le club parisien, qui est maintenant à 6 points de la 8e place, hein, qui est qualificatif pour les play-offs. Donc, c'est une période compliquée pour le Paris Volley, éliminé également en coupe. Donc ça va être très très chaud pour eux, mais on espère qu'ils vont redresser la barre.
Très bien, eh bien écoutez messieurs, merci, ça a été un plaisir. On va remercier Juliette, les Tessadaires aujourd'hui. Hein,
oui, pour ma dernière.
De Nice. Tu reviens quand tu veux.
Je reviendrai.
Hein, ok, merci Guy, à très bientôt.
À bientôt.
Hein,
merci.
La semaine prochaine.
Je serai là.
Et puis merci à nos amis Anthony et Jean-Baptiste.
Merci à vous, hein. Ça a été très sympa.
Voilà. Ouais, on va remercier Jason qui a été donc aux manettes nouvelle fois. Très brillamment ce soir. Et on finit avec Michel Delpech.
Et Guy, qui a accompagné Jason.
Chanteur. Et Guy aussi, il ne faut pas l'oublier, bien sûr. C'est la relève, donc c'est bien. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.
J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des bouses blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. À Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club. J'avais une vie. Je t'ai chanté. Les gens de la police me reconnaissaient. Les excès de vitesse, je les payais jamais. Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure. On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan.
partant.